Messieurs, dames, bonsoir. On se retrouve ce mardi soir au lieu de lundi pour une nouvelle émission Golasso. Donc, vous l'aurez compris, on a fait l'émission mardi soir et non pas lundi, car hier, il y a eu un très gros match entre Sporting et FC Porto. Et on va revenir là-dessus, bien évidemment. On va revenir aussi sur la journée qu'il y a eu au Portugal, notamment cette journée où il y a eu deux grosses affiches entre le samedi soir, le dimanche soir, je ne sais plus, entre Braga et Benfica, et ensuite le lundi soir entre le Sporting et Porto. Pour rappel, les quatre équipes se tenaient donc en deux points, donc c'était extrêmement serré. On va revenir aussi sur l'actualité, sur le tirage au sort qui a eu lieu pour la Ligue des Champions, mais aussi l'Europa League. Donc pour la Ligue des Champions, Porto est tombé contre Arsenal, et ensuite les trois clubs d'Europa League, Braga contre Karabakh, Benfica contre Toulouse, et ensuite Sporting contre... j'ai un trou de mémoire. Young Boys, voilà. Donc on va débriefer tout ça, et j'ai avec moi pour m'accompagner Mathieu. Comment tu vas, Mathieu?
Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. Émission en effet un mardi. J'avoue qu'on n'avait pas envie de passer. On avait tellement de choses à dire que si on avait commencé à 23h hier, enfin 23h15
Non,
hier, ça aurait été compliqué. Donc excusez-nous pour
les gens
ce
travailleront.
décalage. Ouais, il y en a qui bossent, il y en a qui ont un travail.
J'ai avec moi Kevin. Comment tu vas, Kevin?
Salut à tous, salut à tous les éditeurs. Pas très bien, oui. Après
Étonnamment.
cette magnifique défaite hier soir où on s'est fait un peu dessus et on n'a pas montré grand-chose, donc ça va super. Hein. On dit, on a l'impression qu'on est lundi, mais en fait on est mardi. Donc, super le début de semaine.
J'ai commencé par les perdants de ce week-end. Je termine par Philippe. Comment tu vas, Philippe? Pour une
Ah,
fois.
moi personnellement, je me suis régalé hier soir. C'était bien sympa. Non pas que de toute façon j'étais content de la victoire, hein, mais plus parce qu'en fait j'aurais voulu que les deux perdent, mais c'est pas possible. On m'a apparemment. Un principe un peu bizarre, mais ma foi, on prend. Donc ouais, vainqueur heureux, je dirais. Dimanche soir. Donc j'ai bien dormi, moi personnellement. C'est le cauchemar.
On va
Encore.
commencer par le match de dimanche soir entre Braga et Benfica, qui se soldait par la victoire de Benfica 1-0, but de Tengstedt, je vais jamais réussir à le dire, voilà, qui marque ici son troisième but, si je dis pas de bêtises, en championnat. Donc troisième but décisif en plus, donc c'est un homme qui marque des buts décisifs, c'est important pour un attaquant. Mathieu, je vais commencer par toi, par le match de Braga, où on a vu un Braga bon en première mi-temps, avec encore une fois cette erreur défensive qui coûte le but, et on fait chaque semaine des lives et on a l'impression de se répéter chaque semaine sur les errements défensifs de Braga. Et ensuite une deuxième période où vraiment c'était un attaque-défense où Braga a montré que ça y est, il y avait vraiment quatre gros clubs au Portugal et qui pouvaient tout à fait dominer un des trois gros et qui peut-être méritait de repartir avec au moins un point.
Oui, après j'espère qu'on n'a pas attendu le 19, enfin le 18 décembre 2023 pour se rendre compte qu'il y avait quatre grands clubs, enfin quatre très très bons clubs au Portugal. Non, je suis, ouais, c'est une défaite un peu spéciale parce que pour résumer, oui, enfin on a fait, je pense, un très bon match, un match plutôt équilibré en première mi-temps, un match totalement en notre faveur, je trouve, en deuxième mi-temps. Je trouve que oui, le résultat est un peu flatteur. Je pense que le match nul aurait été mérité pour ce qu'on a montré, pour les occasions qu'on a créées. Et je trouve que voilà, c'était pas non plus mérité que Benfica prenne des points aussi. Il y a eu un plan de jeu en transition qui a été vraiment bien mené. Ils ont exploité nos faiblesses, hein, qui sont, comme tu l'as dit, celles de. Depuis le début de la saison, on veut jouer un football avec les défenseurs centraux qui ne sont pas faits pour ce football. Oui, il faut le dire. Ou en tout cas, on a des défenseurs centraux qui auraient le profil, je pense surtout à Sachi et Aniakate, mais qui n'ont pas la régularité dans les performances pour pouvoir permettre à ce club d'être tranquille défensivement depuis le début de la saison. Donc on a des errements, comme face à Naples encore la semaine dernière, des errements face à Benfica. Sur le but, c'est plus une erreur au milieu de terrain, mais le problème, c'est que ton équipe, en première mi-temps, elle est complètement désorganisée quasiment à chaque perte de balle. Je pense que c'est pour ça que Salazar sort très tôt en première mi-temps, vers la 30e, je crois même peut-être un petit peu avant. Et c'est bizarre.
Un jaune en plus.
Il avait un jaune en plus. Mais voilà, je pense que plus c'est lui qui fait l'erreur, la perte de balle en première mi-temps, donc sur le seul but du match. Donc, pas un bon jour pour lui, alors qu'il sort un match à Naples, je trouve absolument incroyable. Donc c'est dommage. Mais ce but à la troisième aurait pu être corrigé par des occasions qu'on a en demi-temps, plus de meilleures décisions, plus de clairvoyance dans certaines passes et transmissions dans le dernier tir en premier temps surtout. Je trouve qu'on a fait les mauvais choix trop régulièrement. Et ça a donné une performance qui est un peu trop... Je trouve que c'est tu fais encore un bon match dans une grande rencontre, finalement, sur ta performance, mais tu es encore trop gentil dans les buts. Et tu ne marques pas face à Naples la semaine dernière, et c'est incompréhensible. Tu ne marques pas face à Benfica, alors que tu as les opportunités. Tu ne marques pas face au Real à l'aller, alors que tu as deux énormes occasions après l'aller.
Et dans les deux surfaces, c'est un vrai problème comme ça.
Ouais, cette année, en championnat, face aux petits,
ça va.
T'as un Banza qui plante cette saison, et donc à l'image du match face à Vizère, où t'as à peine trois occasions, t'as deux occasions, tu mets trois buts, mais c'est vrai que dans les grandes rencontres, dans les matchs importants, t'as des bonnes prestations dans le jeu, mais t'es trop gentil dans la surface adverse. Et je le répète, alors c'est pas sa faute, pour moi il fait pas d'erreur sur ce match face à Benfica, mais il est pas décisif, c'est Mateusz. L'année dernière, quand il avait un arrêt à faire ou deux arrêts à faire, il les faisait. Cette année, soit il coûte des buts, soit il fait pas les arrêts. Donc, dans les deux surfaces, dans ces grandes rencontres, ouais, c'est compliqué cette saison.
Phil, je suppose que toi, tu as donc aussi une autre vision du match. À contrario, t'as passé beaucoup plus de temps dans ton camp qu'à l'accoutumée face à Braga. Tu as une première période quand même qui est bien réussie. Vraiment, en termes de football, les deux équipes nous ont proposé un très beau match de football, contrairement à hier soir. Mais vraiment, ce dimanche soir, on s'est régalé pour spectateurs neutres. Vraiment, c'était un beau spectacle, une bonne publicité pour le football portugais, où vraiment deux équipes joueuses qui ont joué pour gagner. Tu réalises peut-être l'une de tes meilleures premières périodes, on va dire, de ta saison, avec notamment un axe offensif composé de Rafa et Tengstedt qui ont été très bons, qui ont été très complémentaires, notamment dans la prise de profondeur, dans les combinaisons. J'ai trouvé que les deux se sont très bien associés et tu as été ensuite solide défensivement. Il faut l'être, c'est aussi l'image d'une grosse équipe doit être aussi capable de défendre proche de sa surface et de ne pas prendre des buts. Et tu as aussi montré comme quoi avoir un grand gardien, c'est important pour ce genre de contexte où tu es repoussé dans tes proche de ton but et que tu encaisses beaucoup d'occasions et que forcément tu vas concéder des occasions et tu vas devoir avoir un gardien qui fasse des arrêts et Troubine les a fait quand il fallait.
Sans blague, avoir un gardien c'est important pour gagner des matchs. Waouh. Mais comme quoi toutes les frappes cadrées ne sont pas inarrêtables comme ce qu'on nous disait pendant 5-6 ans avant, parce que quand on prend 3-0 contre Braga l'année dernière, sur les 3 buts il y a quand même au moins 2 frappes qui sont cadrées sur le gardien. C'est sûr que si tu fais chauffer des pâtes avec une passoire et pas une casserole, c'est plus compliqué pour avoir la bonne cuisson, donc forcément ça change tout. T'as pas... Ok, c'est pas grave.
Si, c'est bon.
Mais ça change tout, parce qu'au final, je sais pas pourquoi on joue comme ça en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, j'ai eu l'impression de jouer à 10, même si par moment, il y a 2-3 joueurs qui abdiquent des tâches défensives, donc c'est un petit peu comme si tu jouais à 10 au final. Ou même, on a joué comme une petite équipe en deuxième mi-temps, et c'est Braga qui a complètement dominé les débats. Moi, personnellement, j'étais cloîtré au fond de mon canapé parce que j'ai vu beaucoup de matchs de football dans ma vie, et généralement, quand toute une deuxième mi-temps, tu défends à l'extérieur, dans ta surface, face à une équipe qui tente, généralement, ça finit pas très bien. Mais on avait un gardien en état de grâce qui nous permet de de gagner le match. Mais il y a une différence de visage entre la première et la deuxième mi-temps, clairement. Après la première mi-temps, on a profité aussi de l'espace dans le dos du milieu de terrain de Braga, parce qu'il y avait énormément d'espace. En fait, le match était complètement coupé en première mi-temps. Comme si on joue la 86e minute et que c'est égalité, ça partait d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. On était peut-être un petit peu plus compact, nous, notamment entre le milieu et la défense. Mais le problème, c'est que on n'a pas de finition, tout simplement. Parce que si on avait un peu plus de finition, il y avait trop d'espace. J'étais même étonné. Alors, je n'ai pas l'occasion de regarder beaucoup de matchs de Braga, parce que déjà en Ligue des Champions, à chaque fois, on tombait en même temps, donc ce n'était pas possible. Et en championnat, je n'ai pas vu beaucoup de matchs cette année. Je ne sais pas si c'est normal de voir autant d'espace dans le dos de leur milieu de terrain, ou du moins entre les milieux et la défense. Mais là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. Beaucoup de permutations aussi, on arrivait à trouver les joueurs dans les demi-espaces et on aurait pu causer beaucoup plus de problèmes juste en première mi-temps, mais comme on n'a pas de finition, forcément il y a 1-0 à la mi-temps, et en deuxième mi-temps on fait que défendre et c'est compliqué. On arrive à gagner le match, je crois qu'aujourd'hui c'est le principal. C'était presque une journée à 6 points, parce que compte tenu du match d'hier aussi. Donc voilà, c'était un déplacement compliqué face à une belle équipe qui, pour moi, est une des équipes qui pratique le meilleur football au Portugal, si ce n'est le plus beau football. Donc voilà, plus comme souvent, je me répète semaine après semaine, mais plus convaincu par le résultat que par la performance.
Kevin, si tu regardais le match, t'en as pensé quoi, t'as un peu de tes concurrents directs qui du coup quand même nous ont livré une belle prestation de football.
Ouais, moi j'ai regardé le match aussi et j'ai trouvé que comme vous l'aviez dit, c'était un match assez plaisant, même avec un arbitre qui laissait beaucoup jouer, donc ça fluidifiait un peu le jeu et, ouais. Et ça donnait un match assez fou comme vous l'avez dit, qui allait d'un côté comme de l'autre. Même au bout de 10 minutes, les deux équipes sont coupées en deux, ça va d'un côté comme de l'autre. C'était très intéressant. Et sur le match, oui, j'ai trouvé peut-être Braga avec une approche un peu trop offensive, même s'ils ont un peu rectifié le tir assez rapidement avec la sortie de Salazar. Mais c'est vrai qu'en transition, ils se faisaient dépasser de tous les côtés parce que, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, ils ont une défense lente, donc t'envoies un mec en profondeur, surtout Rafa qui va super vite. C'est compliqué après. Et un Braga, ouais, comme vous l'avez dit, aussi compétent, qui était solide derrière et qui a bien aussi essayé de fermer les espaces à l'intérieur, même si j'ai trouvé que c'était compliqué pour eux de stopper les ailiers, que ce soit Bruma ou Alvaro Diallo. Ils ont fait vraiment beaucoup de mal et c'était compliqué de les stopper, mais oui, avec un grand gardien, tu peux tout faire. Et là, il a arrêté un peu toutes les offensives de Braga. Il manquait aussi un brin de réussite du côté de Braga, parce que quand même, ils ont eu beaucoup d'occasions. Donc, j'en compte pas mal. Mais après, ouais, c'est comme l'a dit Mathieu, un match nul, ça aurait été un peu plus logique. Mais Benfica compétent, a moins d'erreurs à ce niveau-là aussi. Quand tu fais moins d'erreurs, tu gagnes ce match-là. Et ça s'est joué à des détails. Et au final, c'est Benfica qui a gagné. Peut-être avec un peu plus d'expérience sur ce genre de rendez-vous. Mais voilà.
Mathieu, sur un point un peu plus tactique, sur la composition de départ, on a vu que Arthur Georges a décidé, c'est rarement le cas quand même, de mettre deux ailiers de suite, comme ça en même temps sur le terrain. Je pense personnellement que c'était pour écarter la ligne défensive de Benfica au maximum, et notamment le fait de jouer avec Morato, qui n'est pas un latéral gauche, qui est quand même assez lent, et même chose du côté droit avec Orchès, qui même s'il est assez bon, n'est pas un monstre défensif et est quand même assez lent. Est-ce que toi, tu penses de cette façon-là aussi, et est-ce que tu as été satisfait de la prestation de tes ailiers, même si Bruma reste sur, depuis sa convocation, même un peu avant, sur des performances bien moins satisfaisantes qu'au cours des premiers mois, tout simplement?
Oui, globalement, tu sais que tu vas affronter une ligne de 4 et que t'as, et surtout que tu as envie de faire mal aux latéraux de Benfica, qui sont peut-être la faiblesse. Je dis pas qu'Orsnes avec ballon n'est pas forcément une faiblesse, mais sans ballon, si tu lui mets un de ces deux ailiers, tu savais que tu pouvais créer des décalages surtout avec aussi l'appui d'un Borja et même d'un côté gauche en général qui peut être soutenu par un Demilu ou par Ricardo Horta. Donc je pense qu'il y avait une vraie volonté de faire mal sur les largeurs en première mi-temps. Il y avait une vraie volonté d'exploiter ces espaces-là. Il y avait une volonté. Je pense que la mi-temps, elle est en gros. Enfin, la première mi-temps, elle est grande partie liée à notre plan de jeu. C'est-à-dire, certes, Benfica a très bien exploité les espaces parce qu'on a pris beaucoup trop de risques, à la fois en jouant de manière assez individuelle, finalement, sur les hommes laissés devant de la part de Benfica, que ce soit Rafa ou Tengstedt. Et le problème, c'est que Rafa fait l'un de ses meilleurs matchs, mais il fait aussi un de ses meilleurs matchs parce que, depuis le début de la saison, parce qu'il a beaucoup d'espace. Et que là, je veux dire, déjà, s'il est dans un bon moment, comme en début de saison dernière, avec peu d'espace, il peut être très bon. Quand on lui laisse autant d'espace, bon, il n'avait pas besoin de beaucoup pour faire la différence, et c'est ce qu'il a fait. Et je trouve aussi que sur beaucoup d'occasions, ou dans certaines actions où les ballons sont retombés dans les mains de Matej, où les actions n'allaient pas forcément au bout de côté de Benfica, ont réaccéléré directement ensuite après. Et ça crée un peu, je trouve que cette volonté de créer ce sentiment de chaos en première mi-temps, est-ce qu'il était totalement voulu, parce que on regarde la sortie de Salazar très tôt dans la mi-temps, je pense qu'il y avait aussi peut-être une volonté de rééquilibrer, et je trouve que tu rééquilibres un petit peu avant la fin de la première mi-temps et pas qu'en deuxième mi-temps avec l'entraîné d'André Horta et pas dans un milieu défensif, hein. La preuve, je pense que voilà, Braga a réussi à beaucoup mieux contrôler son match avec un milieu de terrain plus créatif, mais surtout avec des qualités pour retenir le ballon, tout comme João Moutinho. Et je pense que c'était l'une des premières fois qu'on voyait les deux sur le terrain, et finalement ça a permis à avoir beaucoup plus de contrôle ensuite au début, enfin fin de première période et lors de toute la deuxième période, finalement avec ce contrôle, cette capacité à être patient, à renverser le jeu quand il fallait sur Victor Gomez, sur Borja et attaquer la surface de réparation de Benfica. Donc, la première mi-temps, je pense que le plan de jeu était un peu surprenant au regard de la qualité des joueurs de Benfica pour contrer, et pour un Tengstedt qui a, je trouve, fait un très bon match. Plus que son but, c'est plus les espaces qu'il a réussi à créer, et c'est la qualité de ses appels. Je pense que c'est un attaquant qui a ça dans son jeu. Après, est-ce que techniquement, est-ce que c'est un attaquant pour Benfica, je ne sais pas. J'ai encore beaucoup de doutes, mais en tout cas sur ce match-là, il a été bon. Et on a une équipe qui a réussi à rééquilibrer en deuxième mi-temps, et qui a, je pense, la deuxième mi-temps, par rapport à ce que disait Philippe tout à l'heure, je trouve qu'elle est surtout liée à nous, en fait. Je pense que c'est quand tu as réussi à être beaucoup plus, t'as réussi à être haut et avoir beaucoup plus de contrôle, t'étais beaucoup mieux aussi pour réagir à la perte. Et l'entraîneur Niakate fait aussi du bien en deuxième période. Après, je sais pas quand est-ce qu'il prendra son rouge, hein. Je pense que sûrement face à Guimarães ou à Porto dans 3 semaines, hein. Mais parce que c'est un garçon qui fait un bon match et qui, pour moi, fait une très bonne rentrée et rééquilibre l'équipe, et a fait du bien en deuxième mi-temps pour avoir le ballon très haut et pour continuer à exprimer ce jeu que Braga a en championnat, en organisation, qui pour moi est bon et n'est pas assez souligné au Portugal. J'ai entendu beaucoup de choses sur notre jeu de transition, sur le truc, je pense que la première mi-temps, on la voit rarement au Portugal, hein, donc ce qu'on a fait l'année dernière, c'est surtout être très bon en organisation et en transition défensive. Et cette année, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les centraux pour faire cette différence. Donc, c'est un micmac un peu de tout ça, mais je pense que Benfica avait l'intention aussi de, par moment, peut-être pas autant, de nous laisser un peu le ballon pour pouvoir contrer, pour pouvoir utiliser ces espaces derrière. C'était plutôt bien joué. Après, la fin de match, la perte de temps de Trubin en fin de match, je trouve l'Espagne une magnifique image sur ce plan de jeu. Je pense que Benfica n'a pas recherché du tout à être autant dominant en deuxième période comme ça a été le cas.
Phil, sur les performances individuelles, si tu peux nous faire un top 3 de tes flops et des tops, on peut ressortir aussi. J'ai bien aimé pour une fois la performance de Kopsou, même défensivement.
Ouais.
Il a mis un peu plus d'intensité défensive et il a été bien plus tranchant dans ses passes, etc. Même défensivement, voilà, il a été très bon. On peut souligner, je viens de le dire, Rafa Silva et Tengstedt qui ont été aussi très bons pour moi. Et aussi pour comme d'habitude, de João Neves qui a été précieux défensivement. Je l'ai trouvé moins dominant balle au pied, mais en même temps, tu as passé toute la deuxième période à défendre. Voilà, est-ce que toi, tu as d'autres flops top sur les performances un peu individuelles que tu voudrais mettre en avant? Et forcément Trubin qui est le top l'homme du match. Ça,
c'est... Oui, c'est top 1 ça. C'est parce que c'est lui qui fait le résultat. Non, ouais, j'avais Kokchou aussi parce que j'ai trouvé bien meilleur. Alors est-ce que c'est ce type de football un peu plus direct qui va lui parler parce qu'il a une passe longue qui est très bonne et une qualité de passe globalement qui est très bonne. Et comme le jeu était un petit peu haché, mais qu'en même temps on était sur un bloc médian bas déjà en première et qu'on envoyait des mecs un peu rapides en profondeur, un peu parce que sur les ailes c'est un peu moins rapide, un peu moins beaucoup même. J'ai bien aimé Orchness parce que je trouve que il assimile de plus en plus ce poste qui n'est pas le sien. Et mine de rien, c'est un gars qui arrive à être solide défensivement. Enfin, il arrive à faire ce qu'on lui demande. C'est surtout contenir l'adversaire et attendre que un Antonio Silva puisse arriver en deuxième lame pour pouvoir couper les actions, sachant que là il y avait quand même des sacrés clients de part et d'autre sur les ailes. Et puis en plus il va t'apporter quand même de la profondeur. Alors c'est pas son poste de métier, mais je trouve qu'il est de mieux en mieux à ce poste. Et après c'est tout ce que tu as souligné. Tungsten, je l'ai déjà dit plusieurs fois depuis son match en coupe contre Famalicão, je le trouve bien mieux. On dirait que il a commencé à assimiler les idées de Schmidt, c'est-à-dire que sans ballon, il est très important. Il a encore un peu de mal à fournir les efforts. Après, les efforts sont monstrueux aussi, hein, et tout le monde n'a pas le coffre de Gonçalo Ramos, donc ça va venir avec le temps. Mais à chaque fois, il fait toujours des très bonnes premières mi-temps dans ce qu'on lui demande sans ballon, que ce soit défensivement ou même offensivement, parce qu'il ouvre énormément d'espace, même quand il ne reçoit pas forcément le ballon, parce que ses appels sont très intelligents. Maintenant, avec ballon, c'est beaucoup mieux aussi, parce qu'au début, il n'arrivait même pas à tenir un ballon, il n'arrivait pas à faire des passes en retrait, enfin des trucs basiques. Là, on a l'impression que les buts quand même de Kontostril, où il donne 3 points, Sporting, plus les quelques bonnes perfs qu'il a fait même en Ligue des Champions et tout, ça l'a libéré et qu'il est bien mieux. Je préfère toujours Moussa, mais c'est bien mieux que ce qu'on a pu voir au début. Et je crois que bon, après Morato pareil, c'est défensivement ça reste solide et aujourd'hui c'est ce qui est le plus fiable. Maintenant offensivement, on a un côté gauche qui est apathique parce que il n'y a pas un joueur qui apporte dans la profondeur. Malheureusement, Morato, arrivé dans les 30 derniers mètres adverses, si c'est à part envoyer une brique, il va pas savoir faire plus, mais c'est normal, c'est pas son poste. Et João Mario, s'il faut jouer autrement que à deux à l'heure, il peut pas, ça, quand ça va trop vite.
C'est vrai que Morato, autant défensivement, il fait le taf et c'est logique, mais autant avec ballon, c'est, je crois que c'est contre Salzbourg, je crois qu'il a 20 balles perdues, un truc comme ça. C'est l'homme qui a perdu le plus de ballons sur le terrain, et c'est vrai que forcément...
Mais je sais qu'il en a perdu autant sur cette dernière entrée.
Mais moi, je trouve ça encore plus fréquent, il fait des pertes de balles, c'est souvent dans l'axe, etc. Mais après, voilà, c'est vrai que c'est pas son poste, et forcément, comme on dit souvent, la ligne de touche, c'est un adversaire, donc... C'est un joueur qui a besoin d'espace et qui a une très belle qualité de pied, mais quand il y a très peu de pression sur lui. Et là, le fait d'avoir un adversaire plus à une de touche, c'est vrai qu'il panique souvent et qu'il perd un nombre incalculable de ballons. Et ça, je pense qu'il va falloir à ça lors du mercato d'hiver, parce que tu ne peux pas tenir la saison avec Morato sur le côté gauche comme ça, même si lui, bon, voilà, ça lui fait du temps de jeu. Mais je ne pense pas qu'il se valorise. Il se valorise beaucoup à jouer à ce poste-là.
Bah non. Non, et puis après, comme je te dis, hein, il apporte de la stabilité et c'est mieux défensivement, c'est mieux que Jurasek. Maintenant, le problème, c'est qu'on a deux joueurs qui apportent pas de danger, qui prennent pas de. Si encore tu joues avec un mec un peu comme ça, mais que devant lui, il y a un joueur virevoltant qui prend les espaces. Alors, toute proportion gardée, bien évidemment, mais Quand on regarde par exemple Arsenal, où tu peux voir un Tomiyasu ou un Ben White qui jouent sur le côté, qui ne sont pas des latéraux de métier, ouais, mais devant eux, tu vas avoir des Saka, tu vas avoir Martinelli, tu vas avoir Trossard, enfin, tu vois, des joueurs qui ont cette capacité à faire les différences en un contre un.
Surtout, il y a beaucoup de là qui former la ligne de 3 et à la relance, chose qui n'est pas du tout fait à Benfica.
Et oui, et puis même, ils reviennent défendre aussi, chose que tu ne vois pas non plus avec João Mário. Encore que contre Braga, il a fait des retours que je n'avais pas vus depuis un moment.
Heureusement, il n'en avait vraiment aucun.
Ceci dit, ça.
Il y a un moment, il regarde Brandza, tu as l'impression qu'il y a... Enfin, il y a une action en fin de première mi-temps. C'est hallucinant de voir le latéral monter comme ça et de rien faire.
Ah oui, bon, c'est pas...
C'est... Après, c'est plus de la saison, on le sait, hein, mais c'est... dans un grand match, c'est quand même hallucinant, tu vois.
C'est quand tu reprends le contenu des matchs, je trouve que c'est incroyable qu'on ait fait 4 sur 4 TTC contre nos rivaux en prenant. Si, parce qu'il y a la Super Coupe.
Ah, Super Coupe, c'est vrai.
C'est pour ça que j'ai dit, ouais, toute compétition confondue. C'est de faire 4 sur 4 comme ça, alors qu'à chaque fois dans le contenu, c'est poussif. Et surtout, en fait, on est conscient, nous, des lacunes et des limites du système, parce que on n'a pas les joueurs pour ce système. Enfin, le système, il a des limites et elles sont visibles à l'œil nu. Sauf que comme il y a des victoires importantes et que sur le bilan comptable, hormis la Ligue des Champions, on est techniquement encore dans la course. Ça maquille un petit peu, donc voilà, la plupart des gens se contentent des résultats. Maintenant, moi je suis persuadé que ça pourrait beaucoup mieux se passer, on pourrait être beaucoup plus en maîtrise si jamais on se décidait à faire les bons choix. Mais pour ça, il faut mettre des cadres et des chouchous sur le banc, et je pense que c'est pas prêt d'arriver. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu pareil chez les deux autres aussi.
Oui. Kevin, si tu as des... Mathieu, je te lance après sur les tops et les flops. Kevin, si toi, tu as des tops ou des flops ou quelque chose d'autre à compléter sur le match.
Bon, après, plus au niveau des flops, il y a João Mário, en tout cas. Enfin, mais bon, ça, c'est depuis le début de saison, en tout cas.
À tous les matchs. À tous les matchs,
voilà.
Et pour toi, tu regardes pas tous les matchs de Benfica.
Je regarde pas tous les matchs de Benfica, mais en tout cas, ceux que je regarde... Enfin, il n'a rien à faire sur le terrain, en tout cas, encore moins en tant que titulaire. Enfin, toutes ses prestations sont...
Même ceux que tu regardes pas, je te jure.
Sont insipides. Là, ils sont ratés à 2 mètres du but. Enfin, il fait une
la passe molle.
Il fait une passe au gardien, alors qu'il doit même mettre sur le côté. Il y a
merci pour l'espoir, JM.
Même son frère aurait marqué, là.
Ah bah, non, il ne manque pas de respect à son frère, s'il te plaît.
Je pense à son frère, parce qu'il
a fait une super carrière.
Je pense à son frère, car j'étais pas loin d'insulter la maman, mais elle a rien à voir là-dedans, la pauvre dame. Mais si je l'avais en face de moi, oh là là, mais le crâne, le houlisdé là, oh là là là. Comment tu peux faire une passe pour lui. Comme ça, c'est incroyable. Même Ton, il a pas fait ça au five.
Mais moi, j'ai pas fait ça.
Ton, il mettait au-dessus du but. Ton.
Moi, j'ai mis à côté. Donc ça, je la vole.
Non mais ouais, non, c'est compliqué pour lui, et même tu sens qu'il fait vraiment son âge, enfin tu sens qu'il est lent,
c'est plus vieux que son âge.
J'ai l'impression qu'il a 40 ans sur le terrain, il fait aucune course, même ses passes, elles sont ratées, elles sont toutes molles, il n'y a aucune intensité. Enfin, je sais pas comment un entraîneur peut se dire, ah bah lui, c'est un titulaire indiscutable, je veux pas le changer, il est bon à tous les matchs, faut continuer comme ça. Enfin, c'est incroyable. Donc au moins Schmidt, je pense que Schmidt doit l'adorer. Enfin, il doit kiffer sa maman ou des trucs comme ça pour le laisser titulaire, parce que franchement,
je pense que c'est pas
possible. Moi, je pense que c'est la dynamique.
Sur la première, surtout sur l'année dernière, où vraiment c'était un joueur qui permet de conserver la balle. Et c'est important d'avoir ce type de joueur qui est vraiment sur des phases de possession ou sur des phases de pressing adverse, arrive quand même à conserver le ballon de façon très naturelle. Il a cette capacité de jouer sous pression. Et c'est pour ça qu'année dernière, je comprenais pourquoi il était titulaire. Au début de saison, j'ai compris pourquoi aussi, parce que voilà, c'est un joueur qui conserve le ballon. Et on sait que quand tu as le ballon, forcément, tu as le contrôle du ballon. Et avoir le contrôle du ballon dans le football, c'est la chose la plus importante. Mais le problème, c'est que cette année, il n'y a même plus une... il a même plus ça en fait, ce qui perd pas mal de ballons. Et puis même, c'est pour conserver, mais conserver le ballon et ne rien produire derrière, bah, c'est vite compliqué. Mathieu, je voulais te relancer bah, justement bah, sur Juan Mario, mais aussi sur. On a une question de la part d'un auditeur qui est supporter de Braga, qui dit pourquoi il pense qu'avec un milieu à 3 avec Victor Carvalho aurait été préférable et aurait tenu un certain équilibre.
Ouais, je le connais bien, ce supporter de Braga. oui, mais ça vient parce que c'était aussi un point que je voulais rajouter en voyant ce commentaire. Il y a quand même, sur le plan de jeu de départ et même sur le changement d'Arthur Georges, il faut dire, il y a quand même de l'ambition. Je suis désolé, je m'attendais pas à voir André Horta rentrer à ce moment-là pour rééquilibrer l'équipe. Enfin, faut en parler aussi. On parle d'un coach qui sur sa deuxième année à ce niveau-là. On en parle beaucoup, c'est vrai. Parfois, on a donné de très très bons retours à Arthur Georges. On a évoqué en début de saison un peu les points où il fallait s'améliorer. Et sur les grands matchs, je suis désolé, les plans de jeu de départ sont quand même plutôt bons. Et même là, la réaction sur ce match-là. Est quand même très bonne et a permis à Braga de rééquilibrer son bloc et d'avoir le ballon et de faire ça avec André Horta au milieu de terrain. Bah, je trouve que c'était couillu et que c'était ambitieux et qu'il faut le noter. Donc après, ça aurait pu être Victor Carvalho qui fait une très très bonne saison et qui ne déçoit rarement, et son entrée en défense centrale avec ce supporter qui nous pose cette question, on en parlait, que ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'essayer Victor Carvalho en défense centrale. Pour essayer autre chose, parce que là ça devient pas possible actuellement il y a vraiment une idée de jeu ambitieuse, il y a vraiment une idée de jeu qui sur ces dernières semaines reprend un peu, enfin pour moi est même encore un peu meilleure que la saison dernière, parce que tu rajoutes un Jean Moutinho qui dans ces moments là est vraiment vraiment extraordinaire, et on en parlera dans les tops et dans les flops. Donc je trouve que t'es encore plus dangereux, et c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps certes, Benfica montre une certaine solidité, c'est-à-dire que le bloc était compact, mais j'ai pas trouvé qu'il était infaillible en fait. Et surtout que tu vois sur les occasions, t'as l'occasion de Banza, t'as les deux occasions de Banza, t'as énormément de centres. Alors c'est vrai que t'as des joueurs qui, quand Antonio Silva, tu rajoutes Morata en plus arrière gauche, tu rajoutes Otamendi dans le contrôle de la surface, dans le contrôle des centres, c'était solide. Mais j'ai pas trouvé Benfica infaillible.
T'as pas beaucoup d'incursions à l'intérieur. Hein.
Bah, t'as l'occasion de Banza. Après c'est serré, ouais.
mais parce que t'as l'occasion de Banza, mais déjà. Parce qu'Antonio se rate aussi.
Oui, bah, tu forces un peu aussi les erreurs, j'ai envie de te dire. Donc, il y a celle-là. Après, je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'écalages qui ont été faits sur les côtés, parce que tu avais deux top pour moi que sont Victor Gomez et Christian Borja sur ce match, et qui ont toujours, je trouve, vraiment une grande majorité du temps pris les bonnes décisions, centrer quand il fallait, temporiser quand il fallait, trouver des solutions un peu plus proches de la surface pour centrer ou pour trouver cette dernière passe. T'as l'occasion d'Horta aussi, qui rentre, le but d'Horta refusé pour 11 cm, hein, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, ça n'arrive pas qu'à Darwin, les 11 cm, et donc voilà, mais je trouve que... Ouais, on parle de leur jeu. 11 cm, pour moi, c'est pas beaucoup, hein.
Non, bah justement, on me le dit souvent, mais...
J'avais dit que c'était pas très bien. J'aurais dû dire une dizaine de centimètres. Ça n'aurait rien changé. Pour moi, sur le changement, j'aurais compris Victor Carvalho, et je pense qu'on n'aurait pas été moins bon, largement moins bon avec lui. Mais je pense qu'avec Ballon, on a mieux maîtrisé et on s'est créé plus d'occasions en demi-temps aussi grâce à ce changement.
Mais même le changement de Serdar, hein, il est, mine de rien, il est
cool. Il a un jaune.
Il a un jaune, mais
c'est totalement pas du
jaune. Il y a une idée aussi. Mais changer un central, même avec un jaune à la 50e, c'est pas.
Mais je pense qu'il fait une grande difficulté en première mi-temps. Ouais. Et c'est ça qui est problématique. Hein, c'est que pour moi, face à Vizerl, c'est la meilleure première mi-temps, meilleur match d'un central à Braga depuis Libesson. Et vraiment, après, c'était que Vizerl, c'était le dernier championnat, Donc, j'ai envie de dire, c'était. Pas normal qu'il ait autant de choses à faire, mais voilà, une semaine après, tu peux faire des erreurs, hein, tu peux perdre un duel, ça arrive. Là, il y avait été beaucoup trop en difficulté sur ce match-là. Je trouve que c'est un central qui a encore beaucoup de
potentiel. Mais du coup, c'est une priorité en janvier.
Pour moi, c'est prioritaire, c'était des ambitions. Hein. Après, tu peux toujours essayer.
C'est quoi, c'est Paul Oliveira le quatrième?
Ouais. T'as Hugo Fonseca qui attend en équipe B depuis quelques mois maintenant.
Et t'en as que un qui est rapide, surtout.
Niakate est pas lent.
Ouais, c'est Niakate. Je pense
Niakate est pas lent. Sachi est pas lent non plus, mais Fonte, oui, très très trop lent.
Si Asachi aussi, il a une charrette. Hein,
ça me fait de la peine, hein, je suis désolé, vieux père. je suis désolé, hein, ça me fait beaucoup de peine, mais sur ce match-là, sur ce genre de match-là, ça devient trop compliqué. Sur les matchs.
Ouais, c'est compliqué, ouais, clairement.
Ouais, quand il faut là, il faut défendre beaucoup trop pour lui. Mais c'est même pas défendre haut, c'est défendre haut et sur la première mi-temps, c'est défendre haut et en un contre un et limite sans couverture quoi. Et c'est sans
après quand il y a pas de cerveau en face, c'est plus facile aussi.
Ouais, mais oui, clairement si en première mi-temps t'as un peu plus de clairvoyance dans tes décisions, tu mènes 2-0 à la mi-temps, je pense facilement.
Ah oui.
Facilement. Oui. Mais ouais, t'as pas assez profité du temps faible qu'on a eu en première mi-temps faible, des espaces et des largesses qu'on a concédé en première mi-temps et qui n'était pas normal.
Du coup, bah,
mais c'est ça depuis plusieurs matchs. Hein.
Ah oui. Ah vous, bah, nous aussi. Hein. Oui. Dans les grands matchs, c'est comme ça. Depuis plusieurs matchs aussi. Après, c'est vrai qu'offensivement, en championnat, tu arrives à rééquilibrer. Et enfin, dans les autres rencontres face aux plus petites, tu arrives à rééquilibrer parce qu'offensivement, tu ne marques pas face à Benfica, mais tu vois quand même que cette équipe, elle arrive quand même en arrivant à l'approche de la surface, c'est vraiment un danger. Et là, un super gardien, mais dans les autres matchs, combien de fois Braga a pris le premier but et cette saison, je crois que t'as 7 ou 8 matchs cette saison, tu prends le premier but et tu reviens au score, donc et tu gagnes à la fin. Donc ouais, il y a une puissance de feu offensivement qui n'est pas du tout rassurée par des largesses défensives individuelles qui sont nombreuses depuis le début de la saison.
Est-ce que tu as tes tops et tes flops, Mathieu?
Ah oui, ils sont présents, ils sont les tops. Le top du top, Jean Moutinho. Ouais. Ça va être compliqué de ne pas le mentionner.
Comme quand on peut être âgé et être bon au football.
Ouais, non,
il y a combien d'années de différence avec Jean-Mario?
Jusqu'à il y en a 4 parce qu'il a, ou 5, parce qu'il a 36 là. Bientôt 37.
Okay. Ressenti 42 pour le mien.
Moi, ressenti 30, je trouve. Ça va. Ça va. Non, vraiment, ouais. c'est...
Deuxième mi-temps, surtout, à partir de l'entrée d'André Horta, forcément, tu te dis « waouh ».
Non, wow. T'avais le capitaine et son adjoint là au milieu de terrain qui ont fait une sacrée deuxième période, mais ouais, c'est... Ouais, Jean Moutinho, c'est la propagande un peu dans le milieu des supporters de Braga pour le faire prolonger dès maintenant, au moins une saison l'année prochaine, et lancer, parce que c'est vrai que défensivement il n'apporte pas autant que par exemple il n'est pas aussi complet aujourd'hui à cet instant qu'un Al-Nusrati qui quand même défensivement est capable de t'apporter certaines choses et de te rattraper, peut-être sentir qu'il peut rattraper plus de coups, tu vois, tu sens que si Jean Moutinho est surpassé au dribble il revient pas, alors que s'il anticipe pas un peu avant il revient pas, alors que Al-Nusrati peut un peu encore revenir sur certaines actions, peut-être pas sur tous les jours mais sur certaines actions, mais c'est vrai qu'avec ballon il t'apporte ouais, 20 ans d'expérience. Tous les jeunes milieux de terrain devraient regarder les matchs de Jean Moutinho encore aujourd'hui. Oui, il n'en voulait pas, donc merci. Hein, merci, Serge. Hein.
Ouais.
Donc, quand tu vois la JR. Vite fait les tops. Borja, ouais, Gomez, très très bon encore sur les côtés. Banza, dommage parce que s'il marquait un des deux buts là, sur une de ces deux occasions, ça commence à devenir très sérieux. Et flop Bruma. Non, flop, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Je suis désolé. En fait, je vais être honnête. Pour moi, il devait même pas être appelé en sélection en novembre. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est nul. Hein. Mais c'est même pas nul, c'est nulissime, c'est veut pas défendre, c'est le Di Maria de Braga, c'est des choix catastrophiques, c'est ne fait pas la passe quand il doit la faire, c'est catastrophique. Hein. Vraiment, hein. Le match face à Naples et le match face à Benfica, c'est le summum de la catastrophe. Hein. Je suis désolé, c'est quand ce garçon voulait se relancer, avait besoin de se relancer, il est exceptionnel, il écoute son coach, il est collectif et tout, il fait une demi-saison et... On peut pas le mentir, j'ai écrit un article sur lui pour vanter tout ce qu'il a fait l'année dernière qui pour moi était vraiment splendide. Là, quand on se prend pour la star parce que payé très cher, parce que je suis revenu en sélection, j'ai rarement ressenti ça pour un joueur de Braga, autant de colère vis-à-vis d'un joueur parce qu'il se prend pour quelqu'un qui n'est pas. Autant j'ai pensé qu'il avait joué tout le match face à Naples parce que c'était pour ne pas le faire jouer face à Benfica parce qu'il avait été nul. Mais finalement, face à Benfica, il rejoue encore tout le match. Donc, c'est peut-être vraiment le seul point négatif que j'ai à parler de la rencontre, des choix d'Arthur Jean sur ce match-là. Parce que pour moi, c'est pas normal que ce soit lui qui finisse le match et pas Alvaro Jallo.
C'est vrai que c'est. D'ailleurs, Alvaro Jallo l'a fait assez comprendre dans sa sortie. Quoi.
Ouais, je comprends. C'est pas son meilleur match face à Benfica, mais il crée l'occasion au début face à Troubini, il crée des décalages, il crée du danger, il est beaucoup plus juste. Hein. Il n'a pas été complètement juste face sur ce match-là, mais il est beaucoup plus juste que Bruma, qui est catastrophique, mais vraiment catastrophique. Mais
du coup, est-ce que l'année dernière, il est en sur-régime ou c'est juste cette année vraiment qui...
On ne sait jamais avec Bruma, malheureusement.
Ouais, c'est qu'on a du mal à savoir. Bon, pour moi, c'est vraiment là, il y a des transmissions sur regarde le match de Braga, peut-être. Il y a des transmissions qu'il faisait l'année dernière qu'il ne veut plus faire. Il part tout le temps dans le dribble, il part toujours s'enfermer. C'est pas qu'on l'a mis dans un confort, mais c'était naturel de le garder, de le voir voilà. Après son mois d'août où il nous qualifie pas lui tout seul pour la Ligue des Champions, mais il est énorme sur la phase de préliminaire de la Ligue des Champions. Il marque le but décisif à Athènes face au Pana. C'est un joueur qui est important, mais si tu regardes son match aller, bon, on était au stade avec Alex, il fait un super match aller face au Panathinaikos. Voilà, il était dans son confort tout d'un coup, et enfin il devait prouver. Maintenant pour lui, je pense, il l'a prouvé. Maintenant, il peut se permettre d'avoir des comportements de star sur le terrain, et ça à Braga, malheureusement, ça va être compliqué à tenir parce que on n'est pas habitué à ce genre de joueur. Alors c'est vrai qu'on n'était pas habitué à avoir des joueurs qui fassent ce genre de différence comme il les a fait l'année dernière, mais on n'est pas non plus habitué à avoir des joueurs qui ont ce genre de comportement. Donc ça, je pense que ça ne durera pas très longtemps.
Les gars, on va passer au deuxième match. On a fait 41 minutes sur Braga Benfica. On aura peut-être moins de choses à dire en termes de foot. Porto, Sporting vs Porto, où le Sporting s'est imposé 2-0 contre Porto. Kevin, je pense que tu as pas mal de choses à dire sur ton club. Alors, sur le plan de jeu, c'est totalement catastrophique avec... un consistant qui nous a pas habitué à ça. Alors généralement il prépare assez bien ses gros matchs, mais là il a voulu jouer avec une défense haute, Pep Zepedro face à Gio Quérez, qui demandait que ça, en sachant que Pep a 40 ans et n'a plus 30 ans, et je pense que Pep pense encore avoir 30 ans ou 20 ans pour pouvoir comme ça résister à Gio Quérez dans la profondeur. Et on a bien vu au bout de 10 minutes que c'était impossible de résister à ce monstre qui est Gio Quérez, qui est pour moi l'un des meilleurs que j'ai vu au Portugal en termes d'attaquant. Et un plan de jeu qui a été vite réduit à néant, et ensuite du MMA, tout ce qu'on déteste dans le football. Donc Kevin, je te laisse parler de ton club, tu parleras bien mieux que moi de ton club, mais encore une fois, prestation ultra décevante, et je pense que ça a été peut-être la goutte qui a fait déborder le vase pour beaucoup, parce que là, c'est pas possible de proposer, non, mais je dirais même pas un contenu comme ça, parce qu'il n'y a pas eu de football en fait, il y a eu juste tout ce qu'on déteste dans le football et de la part du FC Porto depuis maintenant trop d'années sous Concessant.
Pour revenir sur le match, déjà c'est une prestation surtout honteuse. Enfin, c'est une humiliation, j'ai envie de dire, parce que franchement, vu la prestation qu'on a montrée, il n'y a pas grand chose à retenir du match. Enfin, tant on s'est fait dominer de la première à la dernière minute. Franchement, au bout de 2 minutes, je savais qu'on allait prendre 3-4-0 si le Sporting était un minimum compétent devant le but. Et ça n'a pas loupé. Enfin, il y a eu 2-0, mais bon, enfin, il aurait pu avoir 3-4 si c'était un peu plus décisif devant le but. Mais au bout de 5 minutes, tu vois, la physionomie du match, tu vois que, enfin, il y a des boulevards dans le dos de la défense. Tu joues avec Zepedro, Pep, qui ont la charrette. T'as un mec comme Gyökeres qui va vite et qui prend bien la profondeur, qui fait mal dès les premières minutes. Et tu vois que l'approche de Concessant, elle est vite réduite à néant, parce que, comme tu l'as dit, il veut jouer haut. Mais il veut jouer haut, mais même son pressing, j'ai trouvé qu'il était zéro. Enfin, il n'y a même pas eu de pressing. Alors que d'habitude, dans ce genre de match, on essaie quand même de mettre en difficulté l'adversaire, d'aller les presser haut, d'éviter qu'ils ressortent bien les ballons, etc. Là, il n'y a rien eu du tout. Enfin, le Sporting était dans un fauteuil du début à la fin. Je nous ai trouvé vraiment. Enfin, franchement, j'ai rarement eu honte comme ça, tant la prestation était affligeante. J'ai rarement vu ça. Parce que franchement,
le consistant derrière te dit en conférence de presse que c'est l'un des matchs où l'FC Porto a mis le plus en difficulté le Sporting quand même. Et ça, c'est lui.
C'est le pire, mais bon.
Franchement, c'est l'un des pires matchs.
Là, c'est le pire. C'est très très loin le pire match.
C'est l'un des pires matchs que j'ai.
C'est-à-dire au niveau de la bagarre et les.
Ah, la bagarre, ouais, c'était pas mal.
Même comme ça, c'était pas le pire. Parce que celui qu'Alex il a vu, c'était plus.
Le pire, c'est qu'il a te dire qu'il a dit on a joué 2 heures à 10 contre 11. Ah, mais même si on joue à 11 contre 11, t'inquiète pas qu'on savait prendre 3-4 aussi pareil. Hein.
Surtout que c'est justifié.
C'est ça, je sais même pas comment il peut pas se remettre en question et dire que il a eu tout faux sur ce match et que c'est vraiment un peu de sa faute, parce que mettre un Zaïdou défenseur central, faut le faire. faut le faire, parce que quand il l'a fait, putain, qu'est-ce que je voulais me battre avec lui dans une arène. Parce que mettre Zaïdou défenseur central, mais... j'ai rarement vu ça en 26 ans de carrière.
Mais il joue central à Mirandel, il y a 4 ans.
Ouais,
chef d'Alex.
En D3 ou en D4.
En D3, enfin, niveau D4 à l'époque, quoi. Donc, ouais. Enfin, c'est bien.
Il jouait des mecs de 40 ans, ouais, t'inquiète.
C'est par Rui Borges, non ? Entraîneur de Molenz, non ? De mémoire.
Oui, oui, oui. Ouais. Tout à fait. Enfin, ma mention spéciale, merci Alex.
Enfin, il y a trop de, lacunes dans cet effectif aussi. Enfin, t'as une défense Zaïdou, Zépé, enfin, ils ont rien à faire là. Enfin, c'est des mecs qui doivent jouer en D3, en D2, mais ils n'ont rien à faire ici. Enfin, déjà, là, ça, c'est des choix incompréhensibles. Et ce n'est pas la faute des joueurs, c'est la faute du coach aussi. Enfin, le coach, il doit se rendre compte que ces joueurs n'ont pas de niveau pour être titulaires dans ce genre de club. Enfin, Zaïdou, fous-moi Pep latéral, je m'en fous, mais change-moi ça. Mais moi, pas Zaïdou latéral, alors que le mec, il te fait des passes en touche à tous les matchs. Enfin, tu peux regarder la plupart de ses matchs, il ne sait pas faire un jeu long sans que la balle, elle va en touche, ou une basse à l'adversaire, ou... Enfin, je ne comprends pas comment ce joueur peut être un joueur de haut niveau et jouer dans un club comme le FC Porto. Enfin, il n'a vraiment pas le niveau et je pense que n'importe quelle personne qui regarde le football le voit, sauf cet entraîneur. Enfin, c'est pas possible. Et c'est plus le mettre en difficulté qu'autre chose. Parce que là, il commence un peu à se faire détester, alors que franchement, j'en veux pas au garçon. Enfin, il n'a pas le niveau, il n'a rien à faire là, mais c'est le coach. Pourquoi tu le mets sur le terrain ? Enfin, il y a tellement de choix incompréhensibles. Et même dans la manière de jouer, enfin, il n'y avait rien sur ce match, enfin, aucune intention, enfin, on n'a même pas fait un tir au bout de... Si, on a fait un tir de Evan Nilsson au bout de 45 minutes, et encore, c'est un tir dans les nuages, et c'est pour tirer comme ça, il a tiré comme ça, enfin, c'était même pas une action construite, donc franchement, très très dégoûté de ce match, franchement, la plupart des supporters de ces Porto doivent être comme moi, parce que enfin, perdre de cette manière-là, surtout, enfin, c'est surtout honteux et t'as pas l'impression que le coach en prenne conscience. Enfin, pour lui, c'est normal. On a perdu 2-0. Ah, on était à 10 contre 11. Enfin, c'était son excuse tout trouvé, quoi. Enfin,
il a dit qu'il prenait pas ce coup. Il a vu des choses que dans le commun des mortels, on ne voit pas entre comme ça. Ou dans le, ouais, carrément, ouais. Je sais pas comment il a regardé le match, c'est bonhomme, mais pour lui, Porto a fait une top prestation. Et c'est ça qui est inquiétant, en fait. C'est quand ton entraîneur te dit comme quoi il a tout bon. C'est inquiétant. Enfin, Galeno, mention spéciale à Galeno, ouais. Il apparaissait un dribble face à un joueur qui n'avait plus joué depuis 3 ans quand même et qui était sous pression immense, qui en a pleuré carrément tellement il était sous stress. Il apparaissait à passer une seule fois ce garçon. Et moi, ça me rend fou parce que bah, Galeno, c'est pas que je le déteste. Je pense qu'il y a dans un certain contexte, il peut être très utile, notamment avec des champions où il est très bon. Mais en fait, c'est que en donnant cette totale confiance à Galeno, tu vas brider aussi Pep parce que du coup, il veut faire de Pep son Otavio. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, il est partout mais nulle part, il n'est pas le rendement habituel et du coup tu te prives aussi, bah, tu te prives de mettre à son meilleur poste qui est peut-être sur le côté gauche et tu te prives aussi d'un Francesco Conceição qui marchait sur l'eau depuis son retour, notamment avec un but et une passe décisive contre Guimarães et tu le mets sur le banc, en fait il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de plan de jeu, je crois que tu es à 7 défaites en 27 matchs, un truc comme ça, ce qui n'est jamais arrivé depuis une trentaine d'années ou même depuis une cinquantaine d'années, enfin vraiment là il y a Kevin, tu sens que si ça continue comme ça, ce cycle de défaites, est-ce que tu penses que ça peut mettre à la fin Conceição ou tu penses que non, de toute façon, il est intouchable car sans lui, vous avez peur de faire pire qu'encore que maintenant, quoi.
J'ai envie de juste reprendre la déclaration de Pinda Costa qui disait que tant qu'il sera à la tête de ce club, Conceição sera son coach. Donc je pense qu'il difficilement il partira, à part s'il y a une rébellion de la part des supporters. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'on va dans ce sens-là. Mais ouais, on tourne à la catastrophe. Enfin, il y a tellement de manques dans cet effectif, surtout que tu as des joueurs quand même sur le banc. Enfin, tu as Ivan Raimé, c'est un joueur assez propre, assez beau à voir jouer. Enfin, tu sens qu'il y a quelque chose dans ce joueur et au final, tu ne le fais jamais jouer. Il s'est blessé et ça y est, c'est bon, il est parti au trou. Alors que, par exemple, le Brésilien, il fait un début de saison catastrophique. Et même s'il ne joue pas à son poste, il mérite d'aller sur le banc et il ne le sera jamais. À l'image d'un Taremi aussi. Enfin, il y a beaucoup de joueurs aussi qui ne sont pas à leur niveau. Et tu as des joueurs qui attendent que de ça de jouer, à l'image d'un Raimé, d'un Francisco Conceição, même d'un Navarro. Tu as acheté 7 millions de Navarro, tu le fais jamais jouer. Enfin, Taremi joue tous les matchs 90 minutes. Enfin, frérot, il va partir à la trêve et tu le fais encore jouer 90 minutes tous les matchs. Enfin, qu'on ait un peu une logique à long terme et qu'on fasse jouer quand même les joueurs qui vont jouer dans pas longtemps. Enfin, sinon, comment ils vont assimiler les idées du coach, etc. Après, il va nous dire, ouais, ça met 6 mois, mais il n'est pas prêt, il ne joue pas, il vient d'arriver, etc. Processus concessant. Enfin, c'est pas possible, ce genre d'approche de la part d'un coach aussi qui est complètement dépassé. J'ai l'impression qu'il perd le bout de son coaching. Enfin, il y a aussi les limites dans l'approche tactique où à chaque match, dès que son plan de jeu, le plan A ne marche pas, bah, il ne sait pas faire autre chose, il ne sait pas innover, il ne sait pas rectifier le tir. Et c'est toujours la même chose avec Concessant. Enfin, on a l'impression de se respecter.
Mathieu, ton avis sur ce match entre guillemets de Porto et cette façon de détruire à chaque fois le match dès que ça ne tourne pas leur faveur, et c'est cette façon de ne pratiquer en fait plus de football, mais un sport de combat qui devient qui donne en fait à chaque fois une mauvaise image de notre football, parce qu'en fait, si tu prends le dénominateur commun de chaque match où ça se passe mal, et tu retrouves toujours le FC Porto, enfin, les Braga, Benfica, ça joue bien au foot, les Benfica Sporting, ça joue bien au foot, et dès qu'un Braga Sporting, ça joue très bien au foot, et dès qu'il y a un Porto quelque part, c'est des matchs qui sont horribles à regarder.
Ouais, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec Kevin sur le plan B. Hein. Le plan B, c'est on passe à l'UFC, KSW, PFL. Ouais, ouais. Non, mais vraiment, le plan B, c'est ça. C'est que tu sens qu'aujourd'hui.
C'était le plan A hier. Hein.
Non, le plan A, il y avait un truc. Non, en fait, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait un truc.
Ça a duré 10 minutes.
Et dès qu'il y a le but de Gyökeres, il n'y a pas.
Mais... Il y avait Gyökeres, voilà.
Voilà, non, mais en fait, non, c'est vrai qu'en termes de plan, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Je suis d'accord avec Kevin et avec Alex. Hein. L'idée Galeno pour défendre à 5, ok, ça on sait qu'il est capable de le faire, mais tu joues beaucoup trop, c'est-à-dire que dès que tu perds un ballon, bah, tu manques de couverture. Enfin, franchement, c'est un hommage à notre plan de jeu la veille, en fait, hein, c'est que tu mets des épées, ouais, des Pep en individuel sur Gyökeres. Enfin,
je crois pas, mais bon.
Je sais, vraiment, il est vraiment. On l'a quand même assez souvent dit qu'on trouvait souvent que les plans de jeu dans les grands matchs de Concessão étaient bons, pour dire qu'aujourd'hui, hier, il n'y avait rien. Enfin, en tout cas, on n'a rien vu. C'est difficilement visible ce qu'il a essayé de mettre en place. Et le Sporting fait aussi un bon match, hein, mais je trouve que ouais, le Sporting fait pas un match. Fait un match sans forcer, quoi. Ce qu'ils ont fait hier, ça a suffi.
La deuxième mi-temps, c'est vraiment.
Ah ouais, moi j'ai regardé le match sur Bein et autant je trouve que les commentateurs, notamment n'est jamais extraordinaire, mais sur le fait de. J'étais d'accord au moins sur le fait que c'est Porto qui est en Ligue des Champions et c'est le Sporting qui est en Ligue Europa. Si tu regardes ce match, c'est très compliqué c'est très difficile à concevoir. C'était un Porto qui était voilà, qui le plan de jeu n'était pas bon, le trop d'espace, transition défensive absolument pas prévenue. Enfin, quand tu sais que Gyökeres est meilleur dans la profondeur, il est très très bon dos au but, hein, mais il est pour moi meilleur dans la profondeur. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses 40 mètres dans ton dos avec Zepé de Repep en défense centrale. C'est du suicide. Le plan de jeu était suicidaire. J'ai un peu de crainte à 11 contre 11 que le Sporting rentre un peu dans cette dynamique qu'ils ont eu sur les grands matchs, sur les derniers grands matchs, notamment face à Benfica, face à Braga encore cette année, mais même les matchs de l'année dernière et des années précédentes, hein, du fait qu'on ouvre le score et qu'après on essaie de contrôler. Là, ils ont réussi à contrôler parce qu'ils étaient à 10 contre 11 très tôt en deuxième période, enfin 11 contre 10 en deuxième période, mais voilà, c'est un peu le côté sans forcer. Je pense que le Sporting aurait pu être beaucoup plus hier, ils auraient pu facilement mettre 3-4 s'ils avaient eu un peu plus d'efficacité. Et voilà, et le plan B de Porto, mais le plan B, il est déjà l'année dernière. Hein. Pour moi, comme l'année dernière, quand tu sens que tu n'as pas les armes sportivement pour réellement faire la différence, pour créer du danger, tu utilises. Tu as la chance d'avoir un des meilleurs gardiens du monde. Hein. Bon, hier, il fait une erreur. Je pense qu'il fait une erreur parce qu'il ne s'attendait pas à que Pep se fasse manger comme ça. Quand tu vois la réaction, tu te dis. Il s'attend pas que Pep perde son duel comme ça. Mais bon, il est censé anticiper. Après, au pied, première mi-temps, c'est extraordinaire encore. Et ce que je veux dire, c'est que tu as encore un. Voilà, et on l'a vu face à Guimarães. Tu gagnes pas ce match ou tu prends pas des points à Guimarães sans Diogo Costa, je pense, ce jour-là. Et la grande différence, ouais, peut-être, entre les matchs, entre le déplacement de Porto et le déplacement du Sporting ces 3 derniers mois, à Guimarães, c'est notamment ça. Donc, tu as un super gardien. Mais c'est vrai qu'ensuite, offensivement, l'année dernière, tu avais Otavio qui pouvait faire des différences. Aujourd'hui, tu n'as plus personne. Tu n'as plus personne qui est capable de prendre ses responsabilités. Tu as eu Chico Concessant, mais tu ne le fais pas jouer hier. Ouais. Et donc, tu rentres dans.
Et tu as Vanilson qui est dans une bonne phase aussi.
Oui, aussi, c'est vrai. C'est mais ce que je veux dire, c'est qu'ensuite, tu rentres...
Il a servi, en fait, Evanilson, quand tu as
cette
structure de jeu où tu as le néant, Evanilson a beau être sur une bonne forme, s'il n'est pas servi, en fait...
Première mi-temps, dès que le Sporting commence à fermer après le premier but, il essaie de ressortir. Parce que finalement, le Sporting n'avait qu'une volonté, c'est ce qu'ils attendent à chaque fois dans les grands matchs, c'est d'essayer de l'avoir de l'espace. C'est-à-dire, tu les presses à moitié, même quand tu les presses bien, et le Porto a déjà bien pressé le Sporting, des fois, tu t'en sors pas, et notamment, c'est le match, le 2-0 que tu prends... à Porto lors du titre il y a deux ans où tu prends 2-0 et tu reviens de partout sur le carton jeu de Coates. La première mi-temps ton pressing est intense et même comme ça le Sporting arrive à ressortir, donc c'est tout ce qu'ils attendaient, c'était des transitions et des attaques rapides sur sortie de balle, c'est tout ce que tu leur as donné, hein. Bravo le plan de jeu. Et ensuite dès que tu sens que t'es dépassé, ouais, c'est comme l'année dernière, t'as du Costa et t'as surtout l'agressivité, la violence. Moi je parle de violence, je parle de comportements très agressifs qui n'ont rien à faire sur un terrain de football, et je parle même de peur créé sur les terrains de football et sur les bancs, de la part de ce staff, de la part de cette direction, de la part de ce coach, sur les terrains, dès que ça se passe mal, pour essayer d'avoir pour gagner ses avantages. Et pour moi, l'exemple même, c'est l'arbitre d'hier, Nuno Almeida, qui, pour moi, c'est incroyable. Je suis désolé, c'est incroyable de ne pas mettre deuxième jaune tout de suite sur Pep et de mettre autant de temps à lui mettre rouge sur la VAR. Pour moi, c'est de la peur. C'est de la peur parce que ce même arbitre à l'Alvalade en début d'année, pour une contestation de Niakate sur un deuxième jaune, n'a pas du tout hésité à ne rien comprendre à ce que disait Niakate d'ailleurs, parce qu'il ne parlait pas portugais à l'époque, et à lui mettre rouge direct. Enfin, lui mettre deuxième jaune et rouge. Pour moi, c'est à la fois manque de courage, mais c'est aussi parce que ce club-là, cette direction-là, ce staff-là, crée un climat de peur autour des stades pour pouvoir essayer de gagner des avantages parce qu'ils sentent que sportivement, c'est zéro. C'est zéro d'un point de vue du jeu offensif, c'est zéro au niveau de la construction. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus problématique pour une équipe de Conceição, c'est que c'est zéro défensivement. Parce que, un, t'as pas les joueurs, et deux, parce que t'arrives, ton message ne passe plus. Le message ne passe plus. Donc, sur le fait, est-ce que Conceição restera ou pas d'ici la fin de saison, moi, j'en suis pas complètement certain. Je dis pas qu'il partira peut-être pas de son. Il y aura sûrement. Ça sera un truc genre commun accord. Parce que si Porto commence à perdre encore des matchs, si Porto commence à perdre des matchs à domicile, si Porto commence à perdre du terrain sur le Sporting Benfica et voire même Braga, parce que pour moi, honnêtement, sportivement, c'est pas la même galaxie cette saison, je pense que ça peut tourner très vite au vinaigre du côté de Porto.
Phil, d'ailleurs, si Mathieu, tu étais sur Bein, il y a eu un commentaire qui m'a fait rire de Patrice Ferry, c'est que du coup, on a très bien vu qu'il ne regardait jamais Porto et qu'il dit.
Ah oui, je voulais y revenir, Dieu, merci.
Il n'aurait pas pu de voir qu'on se sent s'énerver comme ça.
Ah. Non, mais il a dit sur le banc du FC Nantes.
Sur le banc du FC Nantes, il s'énervait pas comme ça. Et là j'ai hérité, parce qu'en fait, ça montre juste. Il a tout résumé.
C'est un match classique.
En une seule phrase, en fait, il a montré qu'en fait, il fait beaucoup trop de mal au football portugais, parce qu'au final, on va retenir quoi d'hier ? On va retenir ça. Que Porto est un excité sur le banc de touche. Et moi, encore une fois, j'aime les entraîneurs qui vivent le match. J'aime ça. Je préfère ça que Roger Smith, par exemple. Je préfère un entraîneur qui vit le match qu'un mec qui boude pendant 90 minutes. Mais là, c'est l'extrême. C'est l'extrême. Le mec qui a la veine H24 qui sort, tu sais pas pourquoi. Et en fait, cette phrase-là m'a choqué parce qu'en fait, ça montre juste qu'en fait, il fait ce qu'il veut dans ce pays. Et à Nantes, il faisait pas ça, c'est vrai. À Nantes, il faisait pas ça. En Ligue des Champions, il fait pas ça. Et dès qu'il arrive sur un banc au Portugal,
parce qu'en vrai, il le faisait aussi. Il n'allait pas sur les. Des fois, en conf de presse, oui, il avait déjà le même comportement. Je suis tout à fait d'accord.
C'est affligeant, en fait, Phil. Donc, pour parler football, il n'y a pas grand chose à dire sur le football de Porto. Mais pour revenir sur le Sporting, est-ce que tu as des choses à compléter sur le fait que, oui, avec un Sporting un peu plus méchant, je pense qu'il peut y avoir 3-4-0 facile. Et même Ruben Amorim l'a dit en conférence de presse que ce n'était pas non plus un immense Sporting.
Mais même pas forcément un Sporting plus méchant, mais juste un Edwards un peu plus clairvoyant. Edwards, il a deux balles de but à donner. Deux fois, tout seul au deuxième. Et la première fois, il tergiverse. Et après, quand il fait la passe, Pote est hors-jeu. Et donc, du coup, il n'y va pas. Et la deuxième, il est tout seul. Et au final, il préfère décaler Gyökeres, qui lui est déjà décalé sur le demi-espace droit et voit pas qu'il a Pote tout seul dans son dos. Donc, juste ça, c'est les deux occasions de genre. C'est la première, donc première mi-temps. Donc, normalement, il doit y avoir 3-0 au moins. Après, bon, il faut les mettre. Hein. Mais c'est dire tout l'espace qu'il y a dans le, dans le dos de Porto. Et que si ils avaient été juste un tout petit peu plus lucides devant le but, d'ailleurs Edwards qui est un petit peu, c'est un peu plus compliqué, un début de saison qui était plutôt pas mal, mais là dernièrement c'est un peu plus compliqué, comparé aux autres. Tu me diras, pote aussi, c'est dans le jeu, c'est pas le pote qu'on a connu.
Gyökeres cache quand même certaines choses depuis le début de saison du côté du Sporting.
Beaucoup, beaucoup. Gyökeres et souvent c'est le milieu à deux qui remplit. Enfin, moi j'ai remarqué ça hier et contre nous, j'avais déjà signalé le gros match de Jumland contre nous. Mais oui, sur les côtés, c'est un peu plus compliqué. Pote contre nous, il a été fantomatique. Hier, je le trouve pas. Alors, il marque un but, mais je le trouve pas incroyable non plus. J'ai rarement vu un Porto, surtout sous Concession, parce que avant Concession, j'avais vu des Porto en difficulté. Mais j'ai rarement vu un Porto aussi, surtout sur un gros match, genre sans idée, sans rien. L'impression que c'était Rui Vitória hier dans le banc.
T'as peut-être la demi-finale de Coupe du Portugal retour, le 3-0 qu'on leur met en 2020 avec Carvalhal. 3-0 en 30 minutes. C'est peut-être l'une des fois où tu as un Porto complètement à l'agonie, mais là, c'est... Et encore, ouais, je trouve quand même que le Sporting gagne sans forcer. Je pense que le Sporting fait ce match-là il y a 2 ans, bah, tu perds peut-être pas le match, mais je ne suis pas certain que tu le gagnes. Tu vois. Face à ce Porto-là, je ne suis pas certain que tu le gagnes. C'est sans ce Gyökeres surtout, en plus.
Pas Gyökeres.
Voilà. Non, mais je ne sais pas si on va en parler. Hein, mais...
Si, on va parler justement. Bah,
c'est bien grave, quoi.
Je vais vous lancer sur les tops et les flops. Je pense qu'on est tous d'accord sur les tops. C'est Gyökeres et Quaresma qui a réalisé un match exceptionnel pour son retour. Encore une fois, on connaît tous le talent du garçon. Mais ce qu'a dit aussi en conférence Ruben Amorim, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'il est capable de faire ce type de match-là. On sait tous. On sait tous qu'il est capable de faire ça. Pour ceux qui ont suivi en B, chez les jeunes, même quand il fait ses débuts il y a 3 ans pendant la période Covid, on sait qu'il est capable de ce genre de match. Mais le problème, c'est qu'il n'a aucune concentration, il n'y a aucune régularité. Il est capable, le match suivant, de marquer 2 buts contre son camp et de concéder 2 pénaltys. Et c'est le problème de ce jeune garçon. Mais il a été hier le deuxième homme du match et le premier, Kevin. Je pense que tu vas compléter. C'est Gyökeres qui est peut-être le meilleur, sûrement pour moi, le meilleur joueur du championnat portugais actuellement et l'un des meilleurs attaquants qui est passé par notre championnat. Il est juste impressionnant. Il sait tout faire pour un attaquant. Je n'arrive pas à comprendre comment cet attaquant à 25 ans a pu passer sous les radars de tous les gros clubs européens.
Ouais, et surtout que j'ai envie de dire qu'on se disait, ouais, comment ça le Sporting ils mettent autant sur un attaquant, etc. Et au final, on s'était bien tous gourés parce qu'en final, là, ils vont faire un x4 sur l'achat qu'ils ont fait. Je pense qu'il va partir pour 100 millions, ça c'est sûr et certain.
La chose est 100 millions,
facile. Ça dépend du parcours en Ligue Europa, mais 100 millions.
Vu la pénurie du
monde. Peut-être avec les bonus, peut-être, mais.
Ça va être un an, en dessous, ce sera le transfert record, je pense.
Parce que de toute façon, il est complet, il sait tout faire. Je pense qu'il peut jouer dans n'importe quel système, il peut jouer avec n'importe qui avec lui en attaque, il peut se créer des buts tout seul. Déjà, sa première mi-temps, déjà face à Pep, j'ai jamais vu quelqu'un mettre autant en difficulté Pep. C'est très rare de voir Pep passer autant à côté d'un match parce que. Il lui a tout fait. Il y a très peu d'interventions réussies de la part de Pep. Il a réussi à le faire dégoupiller et à le faire sortir son match.
Ça sort du match carrément. Le duel fait qu'il se frustre et ça le sort du match.
Parce qu'en plus, Pep revient de blessure, donc je pense qu'il n'est pas à 100% non plus. Donc, parce qu'il devait déjà qu'il était incertain pour jouer ce match-là. En plus, tu le fais jouer face à un Gyökeres. Merci l'entraîneur, parce que même si je pense qu'il n'avait pas trop le choix, mais.
Non, mais même à 100%.
Non, mais c'est. Je pense que tu peux le faire jouer, Pep, hier, mais tu peux le faire jouer, je sais pas, avec une défense à 3. Tu défends bas, assume, défends bas. T'as pas les armes, défends bas et essaye de jouer les contres. Mais t'as essayé de jouer comme si tu joues comme une grande équipe. Mais le problème, c'est que t'as pas les armes aujourd'hui pour le faire. Donc,
et surtout, tu joues contre un attaquant qui est le meilleur, peut-être, de ton championnat là-dessus, quoi, c'est tout.
Ah, oui, clairement. Tu savais qu'il allait être en 1 contre 1, tu savais qu'il allait être un bouillon. Donc, c'est incompréhensible le plan de jeu qu'on sait ça aujourd'hui, hier.
Ouais, de toute façon, Gyökeres, on a rarement vu ça. Il a cet instinct de buteur qui fait que il va être toujours au bon endroit, au bon moment. Il sait te créer des décalages quand il faut. Il est intelligent aussi devant le but. Parce que c'est pas qu'un attaquant bourrin qui va peser sur les défenses, etc. enfin il y a deux trois situations que j'ai en tête hier où enfin il fait la passe juste dans le bon moment, dans le bon tempo pour trouver les décalages, etc. Enfin il a tout, enfin il est intelligent, il est tueur, c'est garder le ballon de haut but, enfin il a aucun défaut, enfin j'ai envie de dire.
Et t'as d'autres top ou flop à mettre en avant?
Du côté du FC Porto, franchement, j'ai aucun joueur en tête. Enfin, franchement, tout le monde, il y a aucun joueur qui a été au-dessus du jeu. Enfin, aucun. Enfin, Diogo Costa a fait une erreur, donc pour moi non. Pep découpillé, Zépé, on n'en parlons pas. Zaidou, n'en parlons pas. Jean-Marc, il est inexistant. Milieu de terrain, Alan Varela, Stack, ouais. Pff, à la rigueur, allez, hein, moyen, correct. Mais devant, inexistant. Enfin, Galeno, zéro. Enfin, même moins un. J'ai vu sa prestation, moins un. Et ouais, enfin, non, personne. Personne à retenir. Et du côté du Sporting, j'ai bien aimé Yulmand aussi. Enfin, tu sens qu'il t'apporte cette assise défensive qui fait que même quand tu es un peu plus en difficulté, il va te réussir à te garder les ballons et même à avoir cet impact au milieu de terrain pour récupérer des ballons, etc. Enfin, je pense qu'il est très précieux au milieu de terrain pour le Sporting, avec un Morita aussi qui permet un peu de fructifier ses ballons quand il les récupère. C'est un peu le duo parfait, enfin, le mec qui récupère et le mec qui va garder la balle et qui va distribuer. C'est aussi ces deux joueurs-là que j'ai envie de mettre en avant du côté du Sporting. Sinon, il n'y a pas d'autres joueurs à part Gyökeres, mais on en a déjà parlé.
Mathieu, je pense sur tes tops et tes flops.
Flop, toute l'équipe de Porto. Mais en spécialement Galeno. Parce que pour moi, après, je le défends quand il. C'est pas grave, je le défends. C'est que moi, comme tu l'as très bien dit, Alex, tout à l'heure, dans certains contextes, avec un coach qui veut jouer au football, en tout cas qui veut mettre quelque chose de cohérent en place avec des consignes claires, je pense qu'il s'en sort. Ce sera toujours le joueur avec les mêmes défauts, mais je pense que tu peux masquer ses défauts avec certaines choses dans ton jeu. Et là, t'as rien, et donc, le garçon fait n'importe quoi. Parce qu'il sait pas, il sait globalement pas quoi faire sur le terrain. Donc ouais, non. En termes de flop, je pense qu'il y a toute l'équipe de Porto. Thème de top, c'est surtout Sporting, comme vous l'avez dit, Gyökeres, tout le monde, Quaresma, content pour le garçon, parce que content, enfin, ému un peu aussi par ses larmes, parce que ouais. Ça, voilà, ce sport est compliqué, tu sens que c'est, voilà, c'est, il a eu beaucoup de pression très jeune, quand tu commences aussi jeune, t'as peut-être donné l'impression de pas atteindre les attentes qu'on a placées en toi très jeune, et finalement le garçon n'a que 21 ans. Donc ça nous rappelle à quel point c'est vrai qu'on peut être dur et qu'on peut ne pas se rendre compte que pour un joueur, qu'un joueur de foot reste un être humain et que leur métier n'est pas tout à fait normal, et la pression qu'ils reçoivent et tout ce qui est l'environnement qu'il y a autour n'est pas forcément facile à gérer pour tous les joueurs, loin de là. Donc bravo à lui, j'espère qu'il va. Enfin, j'espère pas trop, hein. Pas obligé de faire des top matchs tous les week-ends. Hein. T'aurais pu faire ça dans un autre club. Parce que oui, c'est un garçon qui, on avait vraiment d'énormes espoirs lui. Pour moi, il est, par rapport à un Antonio Silva, par rapport à un Thomas Araújo, c'était un tout petit peu au-dessus, quoi. J'ai dit Thomas Araújo, vous avez remarqué.
Bien, il y a des progrès.
Il y a des progrès. Mais c'était un joueur qui devait. Selon nous, je pense faire déjà être en sélection, peut-être. Bon, voilà, la carrière n'est pas allée, sont loin d'être toujours linéaires. Et donc, bravo au garçon pour son match. Un peu facilité parce qu'il a eu devant lui
un tout droit.
Un nulos. Vraiment, je suis désolé, mais c'est ce genre de match-là, il les a jamais fait Braga en 2 ans et demi. Hein. Jamais. Hein. C'est jamais, jamais, jamais. 3 ans et demi, jamais. Hein.
Et pourtant, c'est trop récurrent pour toi, malheureusement.
C'est le tout droit originel.
Ah, c'est le tout.
Il sait faire que ça.
Je suis...
Il fallait remplacer Maréga et qu'on se sent bien ce genre de joueur. Ouais.
Ouais, c'est délirant.
Film, parlons un peu aussi de Taremi, parce qu'il passe à travers les.
Oh non, mais vas-y, mais pourquoi ça tombe sur moi?
Encore une fois, je trouve que c'est un bon joueur. Hein. Mais est-ce que c'est pas le joueur le plus surcoté du championnat?
Il n'y a rien à dire. Le match hier, il est cataclysmique. Moi, je suis support. Si non, attends, waouh, que parce que on risque de couper.
Attention.
Si je suis à la place de Kevin, par exemple, mais je pète un câble. Et Kevin, ça fait genre ça fait les derniers space qu'on a fait et tout. Ça fait un moment qu'il dit mais c'est. Et en fait, ce truc-là, je l'ai dit tout à l'heure, et alors je ne suis pas sûr que ça soit... Enfin, Mathieu pourra me contredire, mais je n'ai pas l'impression que ça se voit beaucoup à Braga. Mais en tout cas, chez les trois gros, il y a un problème de statut. Les joueurs ont leur chouchou. Donc nous, forcément, c'est la triplette derrière l'attaquant. Ils ont beau être mauvais, ils ne sortiront pas. Par contre, voilà, un Kokchou, un Florentino, un Casper, un Moussa, ils sont un peu moins bien, ça saute direct. À Porto, ça va être Galeno, ça va être Taremi notamment. À Sporting, ça va être Jgaï ou Adan, Poligno, Pot, surtout. Et à Braga, j'ai pas l'impression. Déjà, je trouve que l'équipe, elle tourne un peu plus. Et j'ai pas l'impression de voir trop ça parce que. À un moment, c'est Ruiz qui est titulaire, à un moment, c'est Bonza, et ça tourne pas mal. Et à Porto, c'est incroyable d'avoir Taremi encore titulaire après ses dernières prestations. Alors, je veux bien que tu le mets titulaire parce que, comme Schmidt faisait avec Ramos et tout l'année dernière, tu sais qu'à tout moment, il peut te marquer un but, il peut te trouver un péno, il peut te faire des trucs. Mais au bout d'un moment, si le gars n'est pas bon, faut qu'il vienne s'asseoir à côté de toi et faut laisser la place aux gens. Enfin, je sais pas. Moi, je le conçois comme ça. Le football, c'est à base de concurrence. Si tu mets les mecs dans un confort, ils sont pas bons. Et t'as un mec comme Fran Navarro qui est un joueur plutôt habile pour ce sport qui est le football. Il joue pas. Donc voilà. Après, je pense que Kevin partage plus ou moins ce point de vue parce qu'il en a déjà parlé souvent et tu vois, si par exemple tu veux qu'un PP soit remplaçant parce que tu le trouves pas assez efficace devant le but, je veux bien. Après, il crée quand même des choses beaucoup plus qu'un mec comme Taremi. Dans la forme qu'est Van Nilsson, se priver d'un Fran Navarro je parle même pas de Raimé parce que bon, après tout dépend s'il veut mettre Raimé derrière l'attaquant ou s'il veut le mettre sur un côté. Se priver de Raimé, c'est lunaire parce que c'est le joueur frisson par excellence. Se priver de ton fils alors que le mec il te fout le bordel, c'est pareil, je comprends pas. Après, moi j'ai pas mes diplômes, hein. mais continuer à faire jouer Taremi alors que aujourd'hui je ne sais pas si Tony Martinez n'apporterait pas plus. Ne serait-ce que par son envie, par son jeu de tête, par... il n'a rien apporté.
C'est comme ça depuis quelques temps. Hein. Enfin,
ouais, depuis un moment. Mais après, tu vois, il fait...
Depuis la Coupe du Monde.
Je ne sais pas s'il
est revenu de la Coupe du Monde. Moi, je trouve qu'il est...
Les matchs contre le Shakhtar, peut-être... Il faut le prendre avec des pincettes par rapport à le match aller contre le Shakhtar, c'est peut-être le meilleur match qu'il fait cette saison. Et le retour il est bon aussi, un peu moins qu'à l'aller, mais
il marque aussi en plus.
Mais il est bon aussi. Mais voilà. C'est
surtout que c'est un joueur qui va partir.
Un joueur du standing du FC Porto, c'est trop peu.
C'est ça qu'il faut dire, c'est un joueur qui va partir. C'est un joueur qui va partir libre. Et au final, tu le fais jouer 90 minutes tous les matchs. Enfin, ok, je veux bien que ce soit un joueur important de ton dispositif, etc. Enfin, même, Concession, on l'avait dit, c'est un joueur qui fait beaucoup sans ballon, etc. Mais enfin, il y a des joueurs derrière qui peuvent prendre sa place, qui sont aussi intéressants que lui, même meilleurs que lui. Enfin, Raimé, comme on l'a dit là, c'est incroyable qu'il ne soit pas, qu'il ne joue pas plus, en tout cas, dans cette équipe. Enfin, déjà, quand il était là, on voyait la différence avec et sans lui. Hein. Enfin, il y avait un Porto avec et sans lui.
Son entrée contre le Shakhtar, il touche trois ballons et tu vois tout de suite que... Eh ben, on l'a dit d'ailleurs, il touche trois... je crois que c'était avec Antoine, je fais le space d'après-match. Il touche trois ballons, tu as l'impression qu'il peut créer le danger trois fois. À l'inverse, Rougi qui rentre, il touche trois ballons, il crée le danger, mais contre toi, du coup. C'est un peu moins sympa.
Les gars, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce match ou on peut passer au, on va dire, dernier thème, ça va être rapide, sur les tirages au sort. Est-ce que vous avez d'autres choses à compléter sur ce match entre Porto et Sporting?
Juste sur Taremi, rapidement, je trouve qu'il représente un peu tout ce qui est Porto aujourd'hui. C'est un joueur qui est en décadence pour moi depuis un an. Moi, je trouve qu'il y a un Taremi avant la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde. Après, il y a des choses qui sont passées dans son pays entre-temps. ça fait un an, enfin ça dure longtemps, je sais pas comment ça peut le toucher, hein, mais donc faut pas comme on dit, faut pas toujours imaginer, on n'est pas toujours dans la tête des joueurs et on n'est pas toujours dans leur quotidien, mais sportivement en tout cas, ça fait pour moi depuis un an qu'il est nettement en dessous de ce qu'on a vu. Donc je trouve que le terme surcoté Alex est un peu fort parce que
le plus surcoté pendant...
Aujourd'hui, peut-être. Aujourd'hui, oui, mais
je pense comme c'était une star du championnat aujourd'hui.
Oui, ok. Aujourd'hui, je suis d'accord que c'est. Enfin, il y a une idée qu'on a de Taremi d'un joueur décisif et important dans son équipe, qui n'est plus le cas, qui n'est pas du tout pour moi, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et comme l'a très bien dit Kevin, bah, tu te rajoutes à ça le fait qu'il est sans contrat, que tu n'as pas réussi à le vendre l'année dernière, que tu as eu des problèmes administratifs, on va dire ça comme ça, plus que le problème d'agent l'année dernière. Ça, le fait que tu vas le faire jouer jusqu'à la fin de son contrat s'il ne part pas cet hiver, et donc tu vas rien garder sur lui. Ça, plus le fait que bah, tu n'as pas de concurrence, tu as un effectif qui est faible. Et donc, je pense que quand Sao se dit bah, « c'est la seule touche créative que j'ai un peu côté gauche », parce qu'il va dreamer d'en arriver et qu'il y a le processus concessant, donc voilà, tu te retrouves avec beaucoup de symboles dans son cas qui sont un peu symptomatiques du FC Porto 2023.
On va passer au tirage au sort, les gars. Alors, il y a le tirage au sort qui a eu lieu lundi soir, donc comme j'ai pu le dire en préambule de l'émission, Porto tombera contre Arsenal, donc c'est peut-être le tirage le plus dur pour nos clubs portugais. Voilà, alors j'ai vu sur les réseaux comme quoi certains supporters de Porto était pas mécontent de ce tirage. C'était avant le match du Sporting. Je pense que là, ils ont vite compris, ils sont vite retombés dans leur nuage, et ils ont vite compris la différence, le monde d'écart. Je pense qu'ils n'ont pas assez vu regarder Arsenal, peut-être, pour être aussi joyeux, on va dire. Kevin, qu'est-ce que tu en penses de ce tirage au sort, toi? Ça va être très compliqué. Alors, le retour de Fabio Vieira au stade de la gamme.
Ouais, c'est un tirage compliqué. Hein. Bah, de toute façon, à ce niveau-là, surtout que quand tu vois les équipes qualifiées, il y a très peu d'équipes surprises ou des trucs comme ça, à part Copenhague, à la rigueur. Mais tu t'en doutais que tu allais te tirer un gros.
C'est comme ça, c'est automatique.
C'est ça.
C'est les boules chaudes et froides.
En tout cas, moi, je suis content de pas tomber sur eux pour une fois. Enfin, c'est bon, on en a marre de là. Au moins, ça change un petit peu avec Arsenal. Mais moi, je trouvais que c'était intéressant parce que avant le match du Sporting, je me disais qu'il y avait quand même un coup à jouer, surtout qu'en Ligue des Champions, on fait rarement des mauvais matchs aussi. Mais bon, je disais pareil en championnat dans les gros matchs, et au final, hier, on a eu tout l'inverse. Mais en général, dès qu'il y a la petite musique qui résonne, on se transcende, et Galeno sera Ronaldinho. Voilà. Mais en général, on répond présent, et je pense qu'on peut les mettre en difficulté quand même sur un match. Je pense que Arsenal, certes, est un cran au-dessus quand même depuis déjà 2-3 ans, où ils ont bien évolué dans leur jeu, et même ils ont recruté des joueurs assez intéressants et qui collent à leur style de jeu. Mais je pense qu'on peut quand même les mettre en difficulté. Je pense pas que c'est joué d'avance, mais ça va être très compliqué, surtout si on fait les mêmes performances qu'on a fait face au Sporting. Faudra doubler, faire tripler le niveau de jeu parce que sinon ça sera très très compliqué. J'ai peur qu'on se prenne une rouste. Mais j'espère pas, parce que quand même c'est un match que tout le monde a envie de jouer, donc j'espère que les joueurs seront motivés, et j'espère en tout cas qu'on sait ça, on va bien préparer le match, parce que là je pense que s'ils préparent pas bien, là ça peut vite finir en valise et être plus compliqué après.
Oui, le point positif, parce que si tu compares les deux équipes, Arsenal met à 4-5 niveaux d'écart que FC Porto. Maintenant, comme tu dis, le point positif, c'est que le Porto, en Ligue des Champions, généralement, dans les gros matchs, répond présent, même si je me rappelle encore des fessés contre Liverpool. Ça, il faut pas oublier. Mais généralement, Porto mettra en difficulté Arsenal. Maintenant, Arsenal, si vraiment jouent leur jeu, je pense qu'ils se qualifieront. Maintenant, le truc qui peut tourner à l'avantage de Porto, c'est peut-être l'inexpérience d'Arsenal à ce stade de la compétition. Ils sont pas arrivés, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés en 8e de finale de Ligue des Champions. Arteta n'a jamais joué, je crois, en 8e de finale de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. Maintenant, c'est vrai que la première ligue est tellement compliquée que je ne sais pas si ça va jouer, si ça va faire grand chose.
Surtout qu'ils ont le championnat à jouer. Donc en plus, peut-être, on ne sait pas en fait c'est quoi leur objectif principal, si c'est de jouer les deux, si c'est peut-être de jouer le championnat ou si c'est de jouer avec des champions, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi dans la tête des supporters même d'Arsenal l'objectif principal en tout cas de Arsenal cette saison. Je pense que c'est le championnat en tout cas, mais Mais je pense qu'aussi, ils veulent faire bonne figure en Ligue des Champions. Donc, dans tous les cas, je pense qu'ils seront, ils seront motivés, en tout cas, parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés en 8e de Ligue des Champions.
Mathieu, c'est un déplacement à Bakou qui t'attend. Bon voyage, mon pote.
C'est pas sûr encore.
Donc, voilà, Caravag, comment tu ressens ce tirage? Ça aurait pu être pire. Maintenant, ça reste comme d'habitude. Enfin, là, pour l'ensemble des équipes portugaises, hein, c'est du papier. Forcément, ça pouvait tomber sur pire, mais il ne faudra pas sous-estimer aucune des équipes.
Ouais, sportivement, je ne vais pas cacher, je n'ai vu aucun match de Karabakh depuis très longtemps. Donc, je vais me fier.
C'est pas là qu'on peut Sporting il n'y a pas longtemps ?
Il y a un petit moment. Non, c'était pas là.
Il y a deux ans.
C'est plus. C'est non, l'année dernière, c'était Ligue des Champions. C'était peut-être Marseille en Conference League il y a deux ans, je ne sais plus.
Ouais,
en tout cas, ça, ouais. Un truc, je ne vais pas cacher que ça fait très longtemps.
Ouais, ouais. En quart, je crois.
Ouais, c'était un truc comme ça. Donc moi, je pense qu'en tant qu'équipe reversant avec des champions, on part avec un statut qu'on doit simplement valider dans ce match-là. Donc tout autre chose qu'une non-qualification, enfin qu'une qualification sera mal prise, très mal prise. Donc voilà, déplacement, ouais, c'est il y a le déplacement là-bas très 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 long. Je pense que ce sera le déplacement le plus loin de l'histoire du club. Hein. Mais donc c'est en termes de gestion, ce sera il y aura un petit point à faire en février de la part du staff et de la préparation physique. Mais sinon, je pense que comme tous les clubs portugais reversant en Ligue Europa, il y aura un statut à faire valoir de favori dans tous ces matchs pour le COEF UEFA. Hein. Bon, après, la sixième place est quasiment assurée. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 99% de chances qu'on finisse septième au classement. Donc, il faut commencer l'opération remontée dès maintenant et ça passera pas. J'ai plus confiance quand même aux clubs qui sont reversés, qui sont encore en Ligue Europa aujourd'hui, que le club qui est seul en Ligue des Champions actuellement.
Phil, tu te déplaceras à Toulouse, toi, dans la ville rose.
Chanceux, va.
De bons déplacements. Et puis voilà, pareil, un tirage au sort, bon, ça aurait pu être pire. Maintenant, il faudra prendre au sérieux Liverpool qui a battu Liverpool. Toulouse qui a battu Liverpool justement à domicile. Mais c'est vrai que ça reste quand même largement jouable pour Benfica. Si tu ne passes pas contre Toulouse, c'est que ta saison est loupée tout simplement, même s'il y a un titre à la fin. Enfin, je dirais pas loupé, mais ce serait une faute professionnelle, entre guillemets. Même si
ah, c'est
une
faute professionnelle. Oui, écoute, moi je suis assez content parce que je voulais un Français et si possible Toulouse parce que je voulais éviter les trois autres.
Ouais.
Même si un déplacement à Bollaert m'aurait pas déplu. Écoute, moi j'aime beaucoup Toulouse donc ça me va ravir. Je pense qu'il faudra être sérieux. Encore une fois, la réalité d'aujourd'hui, ça vaut pour tout le monde, n'est pas celle du tirage, parce que jusqu'à février, il peut se passer beaucoup de choses, positives ou négatives, d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, maintenant, eux ne sont pas habitués à ce genre de match, parce que la dernière fois que Toulouse a été en Europa League... Europa League ou Coupe du UEFA. Elmander, je crois.
Je pense que c'est la Coupe de l'UEFA.
Donc Elmander, Achille Emana et Fodemann Saré. Jérémy Mathieu. Donc ça remonte quand même. Je ne sais pas si avec la génération Capou, Sissoko, Tabanou, tout ça, s'ils n'ont pas fait Ben Yedder et tout.
Pour la dernière saison européenne de Toulouse, c'est le préliminaire face à Liverpool perdu, et ensuite c'est en Coupe de l'UEFA, et après je ne sais même plus ce qu'ils ont fait.
Mais je ne sais pas si la génération Ben Yedder et tout, ils font pas genre 7e, 8e, et après ils vont en Europa League. Mais quand bien même, en tout cas, les joueurs là n'ont pas cette expérience. Oui, alors ils ont battu Liverpool à la maison, mais il y a un contexte où Liverpool était déjà... presque assuré d'être qualifié. Klopp avait fait tourner parce que il me semble qu'il y avait un gros match le week-end. Il y a un but refusé par la VAR au bout du temps additionnel. Les matchs de phase de groupe sont différents des phases éliminatoires. Donc voilà, j'espère qu'on va prendre cette compétition au sérieux parce que il y a cette possibilité d'être un candidat à la victoire finale si on s'y prend sérieusement, sachant qu'il y a quand même des gros clients. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Maintenant, je suis assez satisfait parce que c'est un club que j'aime bien en face. Et puis, on verra si on peut faire le déplacement. Il n'y a pas beaucoup de place dans le parcage, donc ça risque d'être compliqué, ouais.
Et enfin, le Sporting qui jouera contre les Suisses de Young Boys de Berne. Alors, je n'ai pas vu jouer, donc je sais juste qu'ils ont un terrain synthétique qui est assez relou à aller jouer. Mais pareil, le match retour sera en Suisse. Donc, il faudra faire le maximum au Sporting pour gagner ce match. Mais pareil, ils auraient pu tomber sur bien pire. Et il faudra être sérieux pour se qualifier. On peut avoir la possibilité d'avoir au moins encore 3 clubs si tout se passe bien. Enfin, si tout se passe bien, 4 clubs, même si j'ai quand même des doutes pour Porto. Dans l'idéal, on a 4 clubs. Mais il faudrait, en tout cas, si la logique sportive suit son cours, il faudrait avoir au moins 3 clubs encore en février, au printemps. Donc,
c'est l'équipe qui est relou en transition quand même. Hein. Donc, après, les Sporting l'est aussi. Mais, ouais, c'est une équipe qui est... c'est Marc, le spécialiste du championnat suisse. Mais ouais. Moi, je les ai vus jouer contre Leipzig la dernière journée. Là, et c'est une équipe qui est relou en transition. Et... Surtout avec leur buteur Nsame aussi qui a tendance à être toujours très très bien placé. Donc ça sera aussi un match à prendre au sérieux. Mais le Sporting dernièrement, au vu de la campagne de l'année dernière, je pense que après cette année il y a un championnat qui a possibilité d'aller chercher. Hein. Ouais. Ça, donc à voir comment il va la jouer. Je pense que même en faisant tourner un minimum, parce que Young Boys aussi a un championnat qui peut aller chercher, donc ouais. C'est ça aussi, les deux sont engagés dans leur championnat respectif.
Ok garçon, mention spéciale, Phil, je te laisse, vas-y direct, t'es chaud, mention spéciale.
Ouais, j'avoue que j'ai pas préparé de...
Ah ouais, mais c'est une émission, Philippe.
Ouais, mais écoute, j'avais pas prévu de battre Braga non plus ce week-end, hein, donc. Parfois, c'est
les années. J'ai dormi sans perdre face à un grand, j'avais pas prévu de perdre.
Bon, réfléchis, je passe à Mathieu. T'as une minute pour réfléchir.
Ah oui, mais qui a dit que j'allais parler qu'une minute, ce mec. non, mais je maintiens celle de tout à l'heure. Je voulais parler un peu du Moulay-Liens qui a collé un 5-2 pour le Moulay-Liens ce week-end. On avait parlé, je pense, c'est l'émission il y a 2 semaines ici. Donc, c'est rare d'avoir un tel score au Portugal et ça traduit un championnat qui, encore une fois, même pas en dehors des top 4. Hein, le top 4 va être très intéressant, je pense, à suivre d'ici la fin de la saison. Puisqu'il y a des équipes qui sont un peu plus tâches que d'autres. Hein, Kevin, mais sinon le reste du championnat est plutôt pas mal, vraiment. Alors le Chave, j'ai redevenu dernier du championnat. Hein?
Vous êtes encore
deux points. Deux points. Oui, mais moi j'ai pas l'arbitrage avec moi. 23 minutes de temps additionnel face à Roca, le deuxième jaune face à Benfica, le deuxième rouge face à Benfica, le but refusé hier. Et sans eux, vous serez derrière.
Il y a faute. Il a fait une baillette.
Il y a faute. Ah, mais sur la faute, je suis désolé. Hein, moi, c'est pas une erreur manifeste d'habitude de la VAR. Parce que moi, j'ai toujours pas trouvé l'image où il y a vraiment faute de Jean Mario. Hein.
Il est pas tombé tout seul. J'imagine qu'il est pas tombé tout seul.
Oui, bah oui, vous tombez pas tout seul. Va dire ça à ta amie. C'est bon.
C'est pas lui-même, du coup.
Mais oui, c'est possible. Hein, ça arrive. Ça arrive. Le mec a un total déséquilibre. Moi, il n'y a aucune image qui. Il y a aucune image qui montre pour moi que Jean Mario, que Corazon touche Jean Mario. Donc Moulay-Liens, c'est très bien. Cody Sang rentré, un but, 2 passes D, magnifique. Un petit sud-africain, extraordinaire joueur. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Avec Xavi, j'ai retourné dernier, alors qu'on pensait que c'était un peu mieux. Et finalement, quelques mauvais résultats, et tu retombes très vite dans tes travers. Donc, un championnat, je pense, voilà, on le répète, mais je pense aussi pour le maintien, ce sera pour l'Europe et pour le top 4 aussi. Ça va être un beau championnat. C'est un beau championnat jusqu'à maintenant, il faut l'avouer.
Comme les dernières années, ouais. Ça fait quand même quelques années qu'on prend du plaisir à voir le match.
Mais tu vois, l'année dernière, on en parlait avec Antoine, je pense, il y a 2-3 semaines, il y avait les équipes Charrette un peu qui étaient Maritimo et Passos, qui sont revenus un peu l'année dernière. Cette année, tu n'as pas encore cette équipe, j'espère que tu ne l'auras pas. Mais c'est plutôt prometteur en termes de compétitivité.
Kevin, est-ce que tu as une mention spéciale?
Mention spéciale, peut-être aux jeunes quand même du FC Porto. Qui ont quand même fini premier de leur groupe. Donc, un truc positif quand même. premier de leur groupe devant quand même le Barça, donc avec la Masia, etc. Donc ça prouve que quand même il y a de la qualité dans la formation et que il faut s'appuyer dessus. Mais bon, Concession, on a dit que ouais, les joueurs de la B, etc., les joueurs de la B des 19, fallait les regarder parce qu'il y avait des joueurs intéressants qui
voulaient ah, peut-être les prendre.
Ouais, mais bon, s'il les prend, enfin, je me coupe une couille s'il en prend.
Oh, garçon, tu prends des risques.
Oh, waouh.
Ananya Kandé d'ici la fin de la saison, c'est impossible. Ouais, je
pense. Peut-être un Rodrigo Moll pour la hype.
Ouais, juste pour la hype. Ah,
non, juste lui, pour jouer 5 minutes.
Il va jouer 5 minutes en fin de saison en Coupe de la Ligue, ouais. Ou un truc du genre. Ah non, tu peux plus jouer à Coupe de la Ligue.
Même le meilleur buteur de deuxième division de Liga Subseg, il le prend pas. Donc,
c'est normal.
Ouais, c'est normal, il a pas de niveau.
Il a pas de niveau.
C'est qu'il est bien servi.
Pour voir les matchs que fait Tarahi.
Rodrigo Moura, je crois qu'il préfère. Non, il y a Vasco Souza, il compte pas sur Vasco Souza. Alors Rodrigo Moura, ça sera vraiment juste pour avoir la tête, ouais, comme la petite phrase dans les journaux.
Oui, j'ai fait lancer.
Mais Vasco Souza, j'ai vu tout à l'heure que c'était un peu compliqué sa rénovation de contrat. Donc voilà.
Taremi aussi, je te rappelle. Hein.
Et on a passé à côté de l'argent de Taremi, on va le laisser partir libre. Ça aussi, très bonne gestion.
Encore une fois. Comme Herrera, comme Brahimi.
Transition pour le podcast qu'on a enregistré il y a quelques semaines.
Exactement. Qui est toujours disponible d'ailleurs. Phil, t'as le temps de réfléchir ?
Oui, bah, je pensais que Kevin allait faire mention spéciale pour l'Arabie d'hier, parce que les deux buts annulés, si c'est face à Farense, Sporting gagne 4-0. Mais bon, comme c'est face au FC Porto et qu'il y a quand même.
Ah, on se cache plus, je suis désolé.
Il y a ce contre-pressing incessant. Non, mais.
Oui, c'est un pressing de la foi.
Pour les erreurs d'arbitrage, on a
Ah, bon,
il y a pas de Braga, mais bon, Benfica, voilà quoi, c'est bon, vous n'êtes pas non plus.
Sachez que Guimaraes fait un pressing sur se lisant des erreurs d'arbitrage contre nous. Il nous reproche des buts de refuser sur des enjeux où il y a hors-jeu. C'est des trucs assez magiques, notamment face à Rio, je crois. Il y a un but hors-jeu refusé.
Ah, mais sur des matchs qui ne les concernent pas en plus?
Non, sur les nôtres, tu vois, sur Braga, tu vois. Parce qu'en fait, comme ils sont pas loin, cette année, en fait, ils se sont fait film comme quoi ils allaient passer devant nous, tu vois.
Ah ouais,
mais déjà,
ouais
comme Botafogo là. Qui n'a pas de coach, mais moi bon, après, ouais, c'est ça. C'est un peu ça.
Putain.
Moi, j'y sais ouais, bah, deux semaines, je vous
Du coup, mention spéciale pour mon meilleur joueur de la saison, qui a été élu comme le meilleur jeune de octobre et novembre. Meilleur jeune pour être plus que ça, mais ma foi, c'est déjà le meilleur joueur de notre équipe. Et c'est le meilleur jeune du coup de octobre-novembre, et c'est en soi logique, tant le petit est le patron de notre équipe et un des meilleurs jeunes du championnat.
Ok, gars. Bah, merci les garçons. Une heure et demie d'émission, c'était ce qu'il fallait pour débriefer ces deux gros matchs et le tirage au sort. Merci à nos auditeurs. Passez de bonnes fêtes. Je ne sais pas si on se verra la semaine prochaine, je ne pense pas. Hein. C'est Noël quand même, on a tous une famille et une vie. Donc, je vous souhaite à tous un joyeux réveillon, un joyeux Noël. Passez du temps avec votre famille, c'est important, avec les gens que vous aimez. Et on se retrouve très bientôt dans Golasso. On vous tient au courant de la suite, mais on se retrouve très bientôt parce que le football continue et on ne va pas vous abandonner tout de suite. Ciao, ciao les gars, merci encore et bonne soirée.
Ciao, ciao.
Ciao.
Bonne fête. Ciao, ciao.
Bonne fête, ouais.